Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu. Salut Judith et Alexandre, on reprend la réunion de Jennifer Lawrence.
Oui, j'ai l'impression, en effet.
Absolument, je ferai, oui.
Et je sais que vous l'attendez depuis une semaine, bah ouais, j'espère que vous avez revu des films, parce que moi j'ai revu quelques trucs. J'ai revu genre Mother et Serena, j'ai revu le meilleur et le pire.
Oh là là.
Faut du courage pour voir les deux, pour différentes raisons, mais ouais.
Bah, j'ai eu le courage pour aucun des deux, voilà.
Très bien, bravo. Mais il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas la réunion, hein, qu'est-ce que je te dis.
C'est possible, en effet.
Donc, la dernière fois, on a parlé de la carrière de Jennifer Lawrence parce qu'on cherchait, pour rappel, des sujets de vidéos et de dossiers en se disant qui pourrait faire des bons sujets, de notamment peut-être de vidéos, suite à Winona Ryder qui a cartonné. Et on s'est dit que quand même, Jennifer Lawrence avait une carrière assez passionnante et peut-être encore plus qu'au début. Je pensais pas forcément qu'on allait pouvoir dire autant de trucs sur Jennifer Lawrence, mais il se trouve que, bah si, c'est parce qu'au début, c'est peut-être en théorie la parfaite success story. On a vu qu'elle a fait tellement de trucs en si peu de temps, en l'espace de 1 an, 2 ans. Mmh. C'était pas une enfant star, donc elle a commencé à 14 ans. À 20 ans, nommée aux Oscars, elle tournait dans Hunger Games en même temps. Elle est devenue super célèbre en l'espace de quelques mois. À 22 ans, elle avait un Oscar. Elle enchaînait les films et les succès, les succès mainstream avec des grandes sagas, mais aussi le côté auteur prestige avec David Russell. Elle est devenue ultra populaire très vite, et peut-être même trop vite, puisqu'on a vu qu'il y a eu quelques petits signes de problème, et notamment des trucs absolument odieux, comme le leak, les photos piratées de tout un tas d'actrices à Hollywood, tout ce qui s'est passé sur les écarts de salaire, où elle-même a pas mal pris la parole. Et bon, en gros, elle était archi-présente, puisque je crois qu'en 5-6 ans, elle a tourné 10 films, dont 2 franchises. Voilà, alors je sais pas comment elle a tenu, on va dire que c'était la force de la jeunesse, mais bordel de merde. On s'est arrêté sur 2013 en se disant que c'était l'année un peu du succès suprême, parce que, en 2013, elle finissait de tourner Hunger Games 2, et elle reprenait le tournage après son premier Oscar. Elle tourne ensuite American Bluff, pour lequel elle serait nommée une deuxième fois aux Oscars. Elle tournait X-Men...
Troisième fois, pardon,
Winter's Bone, première fois. Elle tournait X-Men Days of Future Past, qui allait être un méga carton record pour la saga. Et à la fin de l'année, Hunger Games 2 sortait pour être le plus gros succès de la saga Hunger Games et de toute sa carrière au box-office. À partir de là, est-ce que c'est évident qu'elle allait redescendre ? C'est la question qu'on allait se poser. Parce qu'après ça, ben voilà, il y a eu Serena, il y a eu... j'ai envie de dire que là-dedans, il y avait Hunger Games 3 et 4, mais on a vu qu'on n'était pas trop d'accord là-dessus. Il y a eu Joy, il y a eu Passengers, Mother, Red Sparrow et bien sûr X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Alors, par où commencer déjà? C'est quoi les mauvais films là-dedans qu'on voit, si on est d'accord? Parce que je pense qu'on sera pas d'accord.
Waouh, si, bah, je pense qu'on va tous être d'accord sur un film qui s'appelle Serena.
Ouais.
Personne n'aime Serena.
Bah, non, je pense que personne, même la réalisatrice, n'aime pas Serena. Donc, ils aiment dire, non, je pense que voilà. Et puis, c'est vraiment un film, je pense que c'est vraiment le film qui scelle un peu ce qui va potentiellement se passer, enfin, ce qui est en train de se passer dans sa carrière. C'est genre, les problèmes sont en train de débarquer.
Ouais.
C'est-à-dire, ça va pas être aussi facile que ça de, en un an et demi, avoir 2 grosses franchises, se taper un Oscar et avoir une relation fructueuse avec un réalisateur, disons,
un acteur,
considéré
même,
comme
Cooper, c'est 4-5 fois qu'ils bossent ensemble, non?
Bah, ça fait, c'est la, en tout cas, Serena, c'est la 3e collaboration ensemble. Parce qu'il y a eu Happiness Therapy, American Bluff. Du coup, il y aura Serena. Il va y avoir Joy aussi, où il est encore.
Oui, il a un petit rôle nul, d'ailleurs. Ouais.
Et c'est tout. Et puis c'est ensuite, après, c'est du nombre des couleurs.
Ouais.
Donc, il est plus revenu après. Mais donc ouais non, c'est sûr qu'elle du coup elle prend un peu des marques disons. Mais à Serena c'est vraiment le
pour toi c'est le pire du pire.
Ouais, pour moi vraiment c'est le pire du pire. En plus j'attendais quand même pas mal ce film puisque c'était justement l'idée de Susan Bier quand même, elle est pas c'est pas n'importe qui comme réalisatrice.
Et puis la post-prod a duré 1 an et demi, 2 ans, non, elle a été
c'est ça.
Interminable,
en fait
ce
c'est
truc.
C'est exactement ça. C'est qu'en en gros le tournage il a lieu en 2012. Donc bon on sait pas comment en 2012 je pense que chez chez Jennifer Lawrence 2012, c'était environ 28 mois.
Mais c'est ça, parce que
c'est impossible. C'est impossible de faire autant de choses en 12 mois, je pense. Donc, je pense qu'elle a dilaté le temps. Elle s'est servie de Days of Future Past pour probablement faire plusieurs films en une seule année. Mais donc bon, l'histoire. Passons sur le fait que bon, c'est un truc avec des mecs. Enfin, c'est un couple qui. Ça va être difficile à pitcher hein, parce que c'est quand même bien de la merde. Mais
ça c'est non, un bon pitch, ça commence comme ça.
Non mais on est dans les années 20 et en gros il y a George qui est joué par Bradley Cooper et Serena qui est donc jouée par Jennifer Lawrence qui s'installe dans les montagnes de la Caroline du Nord pour faire une entreprise de dans le bois. Voilà. Et puis ça part en couille. Voilà. Voilà, en fait il y a des secrets notamment du mari voilà, et puis elle perd un enfant aussi, donc bon c'est...
On peut dire qu'en théorie elle joue encore une fois déjà une femme forte qui va à la campagne oui. Et qui gère la campagne parce qu'elle prend la hache et elle sait comment couper des arbres.
C'est ça. Mais en vrai c'est un peu ça. En plus
en
elle
fait,
vient d'un milieu
la success
pauvre.
Story de Jennifer Lawrence dans la forêt qui commence avec Winter's Bone, Hunger Games, Serena.
C'est ça, elle se balade puis elle trouve des rôles au milieu de la forêt quand elle cueille du champignon, donc c'est hyper pratique quoi. Non mais du coup la post-prod a été calamiteuse. Elle a duré 18 mois donc puisque le film n'est pas sorti avant 2014. Et surtout, il y avait un gros problème, c'est qu'ils voulaient rechanger des dialogues du film, de Serena. Et le problème, c'est que Jennifer Lawrence, elle n'était pas disponible puisqu'elle tournait Hunger Games 2. Donc ils ont dit, il faut absolument qu'on trouve un moyen de convaincre Lionsgate de nous la laisser pour 24 heures et qu'elle fasse les redoublages. Sauf qu'en fait, ça coûtait tellement cher, pour vous dire une idée, ça coûtait plus que le budget même de Serena, de juste la prendre pour un jour. Apparemment, c'est ce qu'ils
hallucinant.
Disaient. Ça, le budget de Serena, c'est 25-30 millions.
Hein. Ah oui.
Donc,
ah ouais.
What?
Donc imaginez que ça coûtait très très cher de juste dire bon, on veut juste Jennifer Lawrence pour redoubler. Donc ils ont dit
on veut juste qu'elle parle
bon,
dans un micro.
Au final, on va pas la faire redoubler du coup parce que ça coûte très très cher. Donc ils l'ont fait redoubler plus tard quand elle a eu fini le tournage d'Hunger Games 2. Et le problème, c'est que le film était tellement naze que ça a été un flop absolu. Il a rapporté 5 millions dans le monde. 3,8 millions aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très très peu. C'est 3,8 millions à l'international. Donc ça doit être un peu plus d'un million aux États-Unis. Et surtout, en fait, les États-Unis ne voulaient pas le sortir. C'est un des derniers pays où il est sorti, puisque, en fait, ils étaient en mode, non, c'est genre.
Des gens qui ont sorti La Maison au bout de la rue. Donc comment
ouais,
ça s'appelle
c'est ça, ouais. C'est ça, La Maison au bout de la rue et The Devil You Know.
Mais ils osaient pas sortir Serena, sérieusement.
Ouais, apparemment, Serena, ils étaient en mode, il y a 9 ou 10 pays qui ont sorti le film avant les Américains, parce que les Américains, non, ça peut pas le faire. Aucun distrib ne le voulait. Là, tu sens que ça commence à être un peu la galère. Enfin, pour moi, c'est vraiment le signe de. Tu sais, il y a des collaborations, parfois il faut s'arrêter, c'est pas une bonne idée, même si les rôles donnaient envie et que c'était vraiment un film fait pour un Oscar à la base. Hein.
Oui, oui.
Susan Bier, elle avait gagné un Oscar pour son film Revenge, je crois, Oscar du meilleur film international il y a une dizaine d'années avant, ou même pas une dizaine d'années avant, plus tôt que ça. Et ensuite, juste Bradley Cooper, gros casting.
Ouais, tu vends les deux en tête d'affiche qui vivent une histoire d'amour. C'est un peu sadness therapy, quoi, parce que clairement, ça finit mal. Mais c'est un peu la même idée, quoi. Ils ont leur gueule, en gros, sur l'affiche. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Quelques petits trucs.
Tout le reste de l'affiche, en fait.
Mais en fait, c'est ça que je trouve un peu amusant en ce moment-là de sa carrière, c'est que t'as l'impression que c'est un peu la fin des formules qui étaient censées être gagnantes, parce que si tu regardes Hunger Games, X-Men et on va dire David O. Russell, ou en tout cas les rôles à Oscar, les rôles un peu nobles. Alors si on parle juste des rôles à Oscar, donc comme on vient de dire, Serena s'est plantée, mais je pense que même Joy, c'était la fin d'une formule. J'ai revu Joy il y a un petit moment, c'était censé être donc c'est leur troisième film, après Happiness Therapy et American Bluff, qui ont tous les deux été nommés aux Oscars, le premier lui a donné un Oscar. Celui-là, elle a été nommée aux Oscars, je crois, pour Joy, mais c'était un peu genre, par principe, tu vois, il devait se dire, bon, on le fait parce qu'elle est sympa, quoi, mais clairement, elle l'aura
pas. C'est Jennifer Lawrence, quand même.
Ouais, c'est ça, c'était un peu automatique.
Ouais.
Mais le film a pas du tout eu un grand succès, et en le revoyant, je me suis dit, au-delà même de son succès du box-office, je trouve que... Au-delà de ce qu'on pense de certains films de David O. Russell, il y a une efficacité dans Happiness Therapy, dans American Bluff, dans la narration, dans le rythme, une énergie. Et dans Joy, je trouve que ça marche vraiment pas. Et je trouve que c'est particulièrement raté sur la fin du film. J'avais oublié comment ça finissait, parce qu'en fait, je trouve que la fin est ratée. le moment où elle est censée reprendre le contrôle de la situation et qu'elle retourne en fait la situation à son avantage en bluffant, ça aurait vraiment pu s'appeler American Bluff d'ailleurs ce film, c'est tellement expédié en une scène, il reste genre 8 minutes de film et après c'est que des flash forward et tout est narré et c'est très bizarre cette espèce de d'anti-spectaculaire à la fin alors que tout le plaisir est censé reposer sur ce moment où après avoir tout perdu, elle au fond du trou, elle s'est cassée la gueule 3 ou 4 fois, elle reprend en main sa vie et ça c'est réglé dans une vieille chambre d'hôtel de merde avec un dialogue. Et c'est expédié, mais un peu bizarre. Je me suis même dit, mais il y a eu des problèmes de montage où il y a un truc très bizarre dans ce film-là. Je trouve que le savoir-faire n'est plus là. Mais toi, Judy, t'aimes un peu plus que moi, non?
Moi, j'avais plutôt bien aimé. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi beaucoup dû à son capital sympathie à elle. Parce que voilà, quand elle est là, ça fonctionne, tu vois. Je trouve que vraiment, elle est hyper chouette. Que le scénario était assez original, même si je trouve qu'il a aussi le côté un peu comme Happiness Therapy, vraiment... très policé pour se dire bon il faut appuyer sur tel ou tel bouton pour être un peu moderne, un peu sympa, un peu émouvant machin, donc je trouve qu'il y a un côté très fabriqué comme ça dans les films de David Russell, donc je suis pas forcément très fan, mais malgré tout ouais moi je trouve qu'il a plutôt une ambiance assez sympa. Après je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je trouve que bon, la sauce prend quand même encore un peu. Je préfère ça à Happiness Therapy, malgré tout. Okay. Sûrement parce que je préfère son personnage, que je trouve vraiment plus intéressant et moins fabriqué, pour le coup. Mais par contre, ouais, le film, là, pour le coup, a coûté 60 millions et n'en a rapporté que 100. Donc, vraiment pas spécialement une bonne opération par rapport au précédent.
C'est pas la recette du succès qu'il y a eu avant, quoi.
Ouais, pas vraiment. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, ils ont pas retravaillé ensemble, ensuite, Jennifer Lawrence et David Russell. Je sais pas du coup si c'est parce qu'elle est prudente par rapport à ce qui est sorti sur lui ou si c'est elle qui n'a finalement plus envie. Mais malgré tout, quand même, sur Facebook, elle a répondu à tout ce qui sortait sur David Russell à l'époque en disant que il méritait pas tout ce qui se disait sur lui et que c'était toujours aussi génial de... Enfin, pour le coup, elle a 100% pris sa défense, quoi. Voilà. Parce que pas forcément ouf, hein. Ça, après, on est juge, mais... ou on ne l'est pas. Mais en tout cas, voilà, elle a quand même pas retravaillé avec lui après. Faut dire qu'il fait des films moins facilement. Bah,
il a mis du temps à faire son dernier film, Amsterdam.
Oui,
ça a mis,
planté
qui en plus est mauvais, ouais.
Bon, déjà, c'était nul, en effet. Ça s'est planté encore d'autant plus au box-office. Mais surtout, ça a mis des années et des années à se faire. C'est un truc qui date de... Bah, à mon avis, Joyce est sorti en 2016 ou 2015, donc 2016 en France, je pense. Et le film Amsterdam, je crois, il a été annoncé... À l'époque, il s'appelait pas Amsterdam, je sais plus comment il s'appelait, mais ça a été annoncé plus ou moins en 2018, il me semble. Il se lançait et il est sorti en 2022.
Pour se planter, ouais. Donc,
ça fait quand même une sacrée débandade, ouais. Quoi.
Et on peut aussi donc revenir sur Hunger Games. Je sais qu'on n'est pas trop d'accord, mais sur la qualité des films, ce qui est sûr, c'est que Francis Lawrence regrette d'avoir coupé le dernier film en deux. Bon, c'est pas la décision de Francis Lawrence, le réalisateur. Oui. C'était la mode à l'époque, notamment les Harry Potter, Twilight et tout ça. C'était la logique, en fait, c'est la vache à lait. Qu'est-ce que tu fais pour gagner plus de thunes plus longtemps? Bah, tu coupes le dernier en deux parties. Or, moi, ce qui me dérange dans les deux derniers films, c'est justement que c'est deux films, parce que je trouve que le premier ne tient vraiment pas debout. La fin n'est pas du tout satisfaisante et je trouve qu'après il y a un problème de rythme avec des trucs qui sont accélérés comme tu disais Alexandre la semaine dernière et d'autres qui je trouve patinent pendant très longtemps. Il y a plein de personnages inintéressants incarnés par des acteurs ou actrices un petit peu reconnus, donc je trouve que l'équilibre ne tient pas du tout sur les deux derniers. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le dernier a fait un score franchement minable pour la saga. C'est le plus petit score alors qu'il a coûté beaucoup plus cher que le premier épisode. Dans aucun monde c'est autre chose qu'un échec. Et quand tu vois à quel point le deuxième avait cartonné, à quel point il y avait une popularité énorme sur ces sagas, sur cette saga, c'est quand même triste qu'ils aient fini comme ça, avec un dernier épisode qui, franchement, un peu dans en autre boudin, quoi.
Bah le 3.1, c'est... Enfin, le troisième, du coup, 3. Mais... Non, mais parce que c'est la partie 1, donc c'est pas vraiment le quatrième, mais c'est
disons
le 3, deuxième hein. Partie de la troisième, quoi. Mais le Hunger Games partie 1, on va dire, la révolte partie 1, donc le 3, c'est quand même le deuxième...
Dans quel épisode, Alex?
Alors, il me semble qu'il s'appelle La Révolte partie 1. Je crois que c'est le troisième, mais partie 1. Non, mais c'est quand même le deuxième plus gros succès de sa carrière, en fait. Aussi noche.
Le troisième,
en tout cas, en termes juste de box-office.
Oui. Les gens, ils sont allés, ont vu la gueule du film en disant
ils sont pas allés voir la suite, en effet. Ouais. 3.2, alors qu'elle était bien meilleure.
Oui, effectivement. Après, c'est vrai que moi, pour le coup, celui-là, la partie 1, je sais plus, la partie 2, je suis allée la voir au cinéma.
Attends, le 3.2?
La 15,56,25. Pour le coup, au cinéma, bon, j'avais fait ma snob, je pense, j'avais pas aimé, je trouvais qu'il y avait des problèmes.
T'es très snob, toi, hein.
Oui.
Parce que, dis-nous, entre Hunger Games, moi, j'y vais pas, parce que.
Tu as pas dit que t'avais tout rattrapé plus tard en disant que t'avais rien vu au cinéma?
Si, si. Mais non, enfin, non, alors, non, j'avais pas dit que j'avais rien vu au cinéma.
Ah, c'est
les premiers que j'ai boudés. Ensuite, sur la fin, j'ai commencé à rattraper les wagons, mais.
Ouais. Au même moment.
Voilà. Absolument. Non, mais, tu vois, le 4, maintenant, je l'aime vraiment bien, alors qu'à l'époque, je l'avais trouvé un peu naze. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, parfois. Genre, il y a des, même, la règle des 360, parfois, il la pète complètement sur des axes où tu te dis, mais.
À ce point.
Donc bon, il y a quelques soucis quand même, mais bref. ça ne méritait pas mon mépris de l'époque, mais j'ai grandi. Et qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ouais, non, effectivement, c'est malgré tout le pire score. Si tu fais le rapport, on va dire budget box office, le pire score de la saga. Et du coup, c'est dommage de terminer sur cette note. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que la première partie, elle est quand même un peu bancale. Moi, je trouve que ça va quand on se les enchaîne. Mais par contre, quand on le regarde seul, sans se dire que la suite arrive derrière, je comprends qu'on soit très frustré sur la fin.
Même si c'est une saga qui a quand même réussi à se tenir en 4 ans, ils ont sorti 4. Hein.
Oui, ils ont été jusqu'au bout. Mais ouais.
C'est vrai qu'il y a eu la satisfaction d'en avoir à chaque fois un par an.
Tu pouvais avoir son Hunger Games.
Le 3 ayant la particularité d'avoir été en partie tourné en France, d'ailleurs.
Ah, mais oui.
Oui, mais,
la 4 aussi, ils ont
plus ou moins, Braxas, ont plus là, ou moins été tournés ensemble, non, il me semble.
Ouais, à Noisy-le-Grand, entre autres.
Voilà,
Ivry-sur-Seine aussi.
C'était dans une rue à côté de là où j'habitais quelques années avant, je crois.
C'est à ce moment-là qu'il a discuté avec Jennifer Lawrence et Elizabeth Banks.
Yes, scénario, Jennifer. En plus, j'avais rencontré Jennifer Lawrence lors d'un junket, d'une interview de merde à l'époque où j'étais chez Webedia Pure People. C'est un grand moment de gênance. Je raconte juste entre nous parce que c'est
à cause de
des junkets où tu passes genre 5-8 minutes avec quelqu'un. À l'époque, j'étais tout jeune et je me suis dit, mon Dieu, je vais parler anglais devant des gens et t'arrives, du coup, t'es assis et t'as la caméra qui se met en route parce que c'est filmé, tu repars avec ta carte SD. Et en face de moi, j'avais Jennifer Lawrence et Elizabeth Banks. Super sympa, normal, et surtout Elizabeth Banks qui a essayé de me mettre à l'aise et elle m'a demandé mon prénom. Du coup, j'ai dit Geoffrey. Et, j'ai un frère qui s'appelle Geoffrey et je n'ai pas su quoi répondre. Du coup, je crois que j'ai rien répondu.
La pauvre qui attend toujours.
Tout en ne répondant pas, je me disais, mais réponds. Mais réponds.
Oh, horrible,
mais réponds,
horrible,
mais qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je dis en anglais? C'est trop tard, ne réponds plus. Ne réponds plus, ne réponds plus.
Donc, c'est moi qui snob alors que toi, Elizabeth Banks, te pose une question. Dis en mode, oh, moi aussi j'ai un frère qui s'appelle comme toi. Et toi, t'es en mode genre, rien à foutre, meuf.
J'étais tellement...
Non, il était paniqué.
Bah, mais oui, mais le message que ça lui envoie à elle, c'est que juste, il en avait rien à foutre.
Mon message était, ne fais jamais Crazy Bear. Et je trouve qu'elle l'a fait, tu vois.
C'est vrai que
c'était
tout est...
précisément pour se venger de toi.
J'avoue. Il y a un personnage qui s'appelle Geoffrey d'ailleurs.
Bah c'est l'ours.
Non, Crazy Bear, je crois.
Bon, pour revenir au sujet, donc on est d'accord qu'Hunger Games, ça finit dans la merde. Si je résume.
Attends, même pas.
Vas-y.
Je voulais dire quelque chose sur le 3, ce qui est intéressant quand même. Alors là, c'est pas spécifique à Jennifer Lawrence, mais c'est à la portée de ses films, on va dire. Le 3 a commencé à avoir un petit peu des ennuis, entre guillemets, parce que, donc évidemment, ça raconte l'histoire d'un soulèvement politique. Et en fait, ça a encouragé, en fait, plusieurs soulèvements politiques par ailleurs dans d'autres pays. Ont repris des gimmicks de Hunger Games en fait et ont un peu pris les films comme modèle et les
ils sont habillés en rose avec des talons hauts comme dans le Capitole.
c'est le signe de la main là surtout.
Oui voilà, en Thaïlande en 2014, le 20 novembre, le film a été interdit, enfin en tout cas des projections du film ont été interdites parce qu'il y a des manifestants qui se sont mis à utiliser donc le signe des trois doigts de la main comme les
Jaywalkers.
Voilà, comme les Walking Jays. Et le 24 novembre, donc 4 jours après, il y a aussi... Attends, c'était où? Après une fusillade, la fusillade de Michael Brown, donc aux États-Unis, il y a eu des tags qui ont été retrouvés sur les murs disant « If we burn, you burn with us », donc qui était vraiment le slogan des révoltés aussi dans Hunger Games.
Ouais.
Donc le film a commencé, tu vois, à diffuser une aura de révolte politique qui a commencé à poser quelques problèmes. Enfin, ça dépend de quel côté on se place. Voilà.
C'est dommage que le film soit moins intéressant que ça, parce que moi, je trouve que l'idée du personnage de la présidente Coin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Joué par Julianne Moore.
Je sais pas si tu connais bien Julianne Moore. Je vais pas le démarrer.
Mais je trouve que le personnage est vachement intéressant et c'est assez... audacieux dans une saga young adult comme ça de faire ce rôle de l'antagoniste joué par Donald Sutherland qui en fait est le faux méchant qui cache la vraie méchante qui a l'apparence de la vraie gentille avec le fait que en fait soit elle qui ait tué la petite sœur en mettant en scène les attentats terroristes de l'autre camp pour quelque chose qui selon elle vaut le coup mais à chaque fois que je revois le film je me dis qu'est-ce qui manque pour que ça marche plus? Je trouve qu'il manque un truc, peut-être que c'est du temps, peut-être que c'est trop accéléré,
c'est pour
parce
moi,
que je
ça.
Trouve que c'est tellement intéressant ce trio qu'il y a entre les...
Trop, ouais.
Toi, tu trouves que c'est bien raconté?
Ah bah non, mais encore une fois, je trouve pas qu'aucun Hunger Games soit un chef-d'œuvre. Et évidemment qu'il y a des choses perfectibles et à améliorer. Le personnage de Julianne Moore, moi, je trouve qu'elle s'éclate à faire la grande méchante. Je la trouve vachement bien là-dedans. Mais par contre, le côté des lentilles, tu vois, elle a un look hyper travaillé et tout. Je trouve qu'elle a un côté un peu cartoon que je trouve pas tout à fait adéquat au film, mais le duo qu'elle forme avec Philip Seymour Hoffman, je trouve ça hyper intelligent. Puis ouais, moi la dernière scène où finalement elle, bon je spoil un peu mais vous avez vu le film, où elle tue Julianne Moore plutôt que Donald Sutherland, mais où je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être un peu genre un peu épais, un peu cucu ou quoi comme manière de faire, mais j'adore parce que je trouve ça hyper intelligent. Et ouais, on le voit, tu vois, en tant que public, on voit cette espèce de nouveau fascisme arriver. Mmh. Et ouais, je sais pas, je trouve ça hyper puissant comme symbole. Pour moi, ça a vraiment marché sur moi.
Moi, je crois que c'est les étapes qui mènent à ça. Il y en a quelques-unes qui me manquent pour que vraiment le sujet de la dernière ligne droite, ce soit cette bascule. Okay. Et qu'en fait, elle pense avoir gagné. En fait, elle a pas gagné. Elle est en train d'aider le futur camp ennemi peut-être une potentielle nouvelle Katniss pourrait essayer d'abattre des années après. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'à un moment, ça va vite. Et du coup, je trouve que l'épilogue est nul. Le fait que la petite maison dans la prairie à la fin, vraiment, je me dis, ah, je m'en fous, hein, royalement, quoi. Ah, vraiment, quoi.
Avec un quasi regard caméra, d'ailleurs, de Jennifer Lawrence à la fin, ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec. Pour moi, c'est vraiment ce qui manque aussi au dernier film. C'est le temps entre l'attentat dont on va comprendre qu'en fait, il est fomenté par le côté dit gentil de base, donc le côté président Coin, pour mettre à mal le président Snow, et qu'en fait. Toute la bascule à ce moment-là, il reste quoi? Il reste 25 minutes de film, donc c'est trop trop rapide par rapport à tous les enjeux que justement se jouent là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie gentille a elle aussi des méthodes qui ne sont pas des méthodes démocratiques, etc., et qui ressemblent beaucoup plus à des méthodes autoritaires et tout. Et ça, c'est dommage que ça se mette pas plus en place, parce que il y a juste la petite réunion avec les anciens vainqueurs des Hunger Games qui viennent se voir et qui disent voilà, j'ai une idée. Donc le personnage de Julianne Moore qui dit j'ai une idée. En fait, on devrait faire un dernier Hunger Games pour se foutre de la gueule de président Snow, machin, et pour lui faire voir ce qu'il nous a fait vivre, machin. Et tout le monde est en mode, c'est pas une super idée. Et que là, Jennifer Lawrence, tu te dis, elle dit OK, mais en fait, tu sais qu'elle dit OK parce qu'en fait, il y a un coup de bluff là derrière, et qu'en fait, elle va s'en servir pour retourner la situation en sa faveur, machin. T'es en mode, bon, dommage qu'on n'ait pas eu un vrai retournement et que ça joue en une réunion, et qu'ensuite, il y a elle qui arrive dans. Le grand, je sais pas, la grande rue principale de Panem.
Avec sa flèche.
Et qu'elle débarque. Et là, pendant 3 minutes, elle vise Donald Sutherland. Et tu dis, c'est bizarre qu'elle tire pas sur Donald Sutherland alors qu'elle regarde Julianne Moore toutes les deux
elles
secondes.
Elles sont très bien placées, quand même, ces deux personnes.
C'est quand même vachement bizarre que personne ne protège Julianne Moore alors que c'est la nouvelle présidente.
En plus, elle ouvre les bras vraiment en mode, je suis ta cible. Mais
c'est ça.
Non, mais après.
Vise la perruque.
Puis elle bouge même pas. Elle a vraiment même pas le temps de bouger. Elle...
Mais moi, je continue d'admirer à quel point.
Julianne Moore. C'est ça.
Oui, aussi. Non, mais à quel point ces films sont hyper actuels, enfin les films et les romans aussi, bien sûr, de Suzanne Collins, qui est quand même la base de tout, mais tu vois, évidemment qu'il y a des conflits aujourd'hui qui se déroulent sur Terre, qui rappellent énormément, enfin d'ailleurs, il y a beaucoup d'images des derniers Hunger Games qui sont pris pour illustrer aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre justement aux gens voilà, ce qui se passe réellement et un peu qui sont les gentils, qui sont les méchants, enfin je vais pas me lancer là-dedans, là, parce que c'est compliqué, mais voilà. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant les zones politiques sur lesquelles va le film sans se retenir, on va dire. Et tu vois ce que tu disais sur la fin avec le fait que puis toi aussi Geoffrey sur le fait qu'il a un enfant et c'est un peu cucu, oui c'est un peu il y a un peu le genre ça y est finalement l'héroïne elle est heureuse maintenant elle peut faire des bébés tout va bien
à la campagne.
Non mais en même temps ce que je trouve intéressant là c'est que du coup en les revoyant l'une des premières choses qu'elle dit dans le premier film c'est que jamais elle aura d'enfant et ce que je trouve intéressant c'est qu'elle a ce discours sur le fait que en fait si elle veut pas d'enfant c'est parce que c'est impossible dans le monde et dans les conditions dans lesquelles elle vit. Et aujourd'hui, on sait que voilà, on est en panique. Enfin, notre superbe gouvernement est en panique totale sur les baisses de la natalité, etc. Mais en même temps, on est dans un monde où on voit pas comment, en fait, on peut avoir envie de faire des enfants tellement on n'a pas d'avenir à offrir à nos enfants. Mmh. Et du coup, bah, je trouvais ça intéressant. Du coup, malgré tout, cette dernière scène qui est un peu cucu, un peu maladroite. À mettre en parallèle avec du coup le début, tu vois le chemin qu'elle traverse de se dire à un moment donné je veux pas d'enfant parce que je peux pas en avoir parce que je peux pas vouloir en avoir et à la fin se dire bah en fait au bout d'un moment si le monde change les envies des gens changeront aussi et évolueront et je trouve ça intelligent.
La fin d'Hunger Games est anti-Macron, c'est ça que t'es en train de dire.
Et c'est pour ça qu'on aime.
Non mais c'est vrai que c'est intéressant qu'une saga young adulte ait eu des questionnements aussi pas complexes parce que c'est pas forcément des questions complexes mais en tout cas c'est des sujets complexes en théorie mais qu'elle s'attaque à justement montrer des gentils qui ne sont pas vraiment gentils, enfin qu'il y ait une vraie ambivalence entre les personnages, qu'il soit pas juste il y a le camp des gentils, le camp des méchants qui aurait été hyper chiant. Ça c'est vrai que c'était hyper intéressant.
Oui, je pense c'est pour ça qu'elle traverse plutôt bien les époques contrairement à Divergente. Je pense qu'elle a plus de mal, je la compare beaucoup parce que je trouve que les deux essayent un peu de construire cette même dystopie d'une société où il y a les faibles et les puissants et où les adolescents naissent un peu de les tordre pour les manipuler, que tu as des figures d'adultes comme dans plein de young adults qui peuvent se révéler contre toi, c'est souvent des actrices oscarisées en plus, enfin, c'est un peu les mêmes modèles, mais Divergente flirte très très vite avec quelque chose de très kitsch dans la construction de l'univers, alors que Hunger Games essaye quand même, et c'est peut-être d'ailleurs le problème du troisième, c'est que finalement il y a peu de fantaisie, t'as peu d'échappatoire, de spectacle. Dans le quatrième, ils essaient de rajouter avec les chiens mutants, avec la vague de black goo chelou là, qui sort des morceaux de métal, mais il y a peu de fantaisie finalement, parce que c'est vraiment quasiment un film de guerre, bon, entre énormes guillemets, hein, mais t'as tout le truc de propagande que je trouve vachement intéressante, avec la réalisatrice jouée par l'actrice qui joue dans Game of Thrones, Nathalie Dormer, c'est ça?
Oui. Ah oui, Nathalie Dormer.
Qui a un rôle vachement intéressant, mais sous-exploité. Oui. Donc c'est vrai que les films ont un propos beaucoup plus intemporel et plus intéressant, même si je les trouve pas tous réussis. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que pas mal de trucs, notamment les X-Men, si on arrive du coup en transition pour arriver au film où ça a commencé d'arriver. Donc pour rappel, dans X-Men Le Commencement, Jennifer Lawrence avait un rôle relativement petit. Mystique, Raven était assez central dans l'équation puisque c'était un personnage qui était à la jonction entre Charles Xavier et Magneto, donc vraiment quelqu'un qui se retrouve entre les deux camps qui veulent le bien mais avec des moyens très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que dans X-Men Days of Future Past, alors je ne sais pas à quel point ça a été changé par rapport à la popularité de Jennifer Lawrence, mais il se trouve que Mystique devient le cœur du scénario. Ouais. Mystique est en grande sur l'affiche et toute l'intrigue tourne autour de qu'est-ce qu'elle va faire. Il faut empêcher Mystique de mener à bout sa vengeance parce qu'en fait, c'est à cause de sa vengeance qu'elle va provoquer littéralement la fin du monde des mutants. En fait, le futur apocalyptique dans lequel on commence au début, où il y a les sentinelles qui sont douées de pouvoirs hallucinants qui peuvent capter et... en fait, ils peuvent reprendre en possession le pouvoir de tous les mutants qui les attaquent en les aspirant un peu, cette espèce de don, avec leur peau chelou, parce que Mystique a du sang récolté de Mystique dans le passé, parce que Mystique a voulu se venger, enfin voilà, tout un truc de réaction en chaîne. Et donc, tout le scénario tourne autour de « il faut retourner dans le passé pour empêcher Mystique pour sauver le futur ». Donc ça devient la clé de voûte de tout le scénario, et il se trouve que c'est quand même bien, puisque c'est Jennifer Lawrence la clé de voûte, donc c'est quand même vachement pratique. Alors je sais pas si vous aimez le film, parce que à l'époque, il a beaucoup marché, c'est le plus gros succès, vous en foutez tous les deux de la saga,
ouais, c'est
ça,
un peu de mal,
c'est pas que je m'en fous, mais je m'en souviens plus.
Donc c'est tu te souviens pas du tout de tout ce que je viens de raconter là?
Bah non, mais maintenant oui, mais non, je m'en souviens pas vraiment, j'avoue.
Tu te souviens pas, à la fin, elle va à la Maison Blanche et en fait Magneto, il sort la Panic Room avec toute l'équipe du président, ses gardes, et il la lâche au milieu d'un stade, et elle en fait, elle veut buter le président et...
Ouais, si, non, si, parce que du coup, moi, je les ai vus récemment. C'est juste qu'après, j'ai pas toujours bien accroché à l'histoire, donc tout n'est pas toujours clair dans mon esprit. Parce que voilà. Non, enfin, globalement, c'est des films. Moi, je trouve que son personnage est intéressant. En fait, comme beaucoup de ce genre de films et beaucoup de, notamment de cette saga-là, je trouve qu'il y a énormément d'idées très sympas, de départs, d'idées chouettes qui pourraient donner des choses pareilles, subtiles, intelligentes, bien écrites. Mais bon, finalement, tout devient hyper gros sabot, tout devient CGI assez moche, tout devient, voilà. En plus, elle, c'est vrai que comme elle était pas fan, qu'elle avait peur, je crois, de réactions allergiques par rapport au maquillage.
Elle a eu sur le premier parce que c'est un cauchemar, et surtout, contrairement à Rebecca Romijn sur les premiers X-Men, elle a beaucoup de scènes, donc en fait, elle avait beaucoup plus d'heures de maquillage, elle était pas en guest, elle était très présente, donc je pense que dans le commencement, c'était lourd, et qu'effectivement, elle disait qu'elle avait eu des sales réactions, quoi. Parce que, bah, t'imagines un truc toxique sur tout le corps et à poil au milieu de tout le monde tout le temps pour jouer.
Ah oui, non.
C'est un peu chiant, quoi.
Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que du coup, plus ça va, plus on progresse dans la saga et moins elle est maquillée. Enfin, elle devient bleue, plus claire.
C'est très, très laid au fur et à mesure.
Voilà. Moins elle est présente aussi. Notamment dans le dernier, par exemple, ça sent vraiment l'évacuation parce qu'elle, c'est comme si elle avait tiré la prise et qu'elle dit, oh les gars, maintenant j'arrête, ça me saoule.
Et puis quand ils la mettent à l'écran, elle est de plus en plus Jennifer Lawrence.
Oui, c'est ça.
Parce que Mystique, dans les premiers, Mystique apparaît, elle est tout le temps cachée, en fait, derrière l'apparence de quelqu'un, sauf son apparence de mutante, mais du coup elle est tout le temps alien et autre, c'est le propos du personnage.
Bah oui.
Là souvent c'est une bonasse, c'est Jennifer. Au début de X-Men Apocalypse, elle est super stylée, blouson en cuir, cheveux bien coiffés et tout, tu dis oui bah c'est Jennifer Lawrence, c'est pas Mystique en fait.
Bah c'est ça, oui, alors que justement Mystique est censée, plus ça va, plus accepter son apparence de mutante et en profiter, quoi, donc...
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin de Days of Future Past, donc qui reboot à moitié la timeline, puisqu'à la fin t'as tout un tas de personnages, Jean Grey et tout ça qui reviennent, et surtout t'as une scène post-générique qui annonce Apocalypse, joué par Oscar Isaac sous un autre maquillage dégueulasse dans X-Men Apocalypse. C'était la première fois que la saga X-Men faisait un truc comme ça de teasing clairement à la Marvel, et X-Men Apocalypse est arrivé avec un méchant qui est censé être un grand méchant dans les comics, et ce film a été... comment le définir? Il a pas vraiment plu aux gens, il a pas vraiment marché, il a pas vraiment satisfait... Enfin voilà, en fait ça a été après X-Men Days of Future Past, qui était un peu le qui a été le pic en termes de business et qui a vraiment plu à plein de monde, X-Men Apocalypse a été la douche froide, et après Dark Phoenix a été encore plus la douche froide. Donc c'est ça que je trouve un peu intéressant, c'est que quand tu mets en parallèle avec Hunger Games, Hunger Games 2 a été le pic de business en tout cas, et les deux derniers sont un peu redescendus. Je connais pas grand monde qui trouve que les deux derniers, si on les considère comme un film, sont parmi les meilleurs, même si tout le monde les déteste pas. Et X-Men, la saga X-Men, personne ne considère que Apocalypse et Dark Phoenix se sont réussis, ou en tout cas sont parmi les meilleurs.
Ouais.
Et en plus, ils se sont vautrés lamentablement, exactement comme Hunger Games 3 qui a fait moins bien que le 2 et le 4 qui a fait moins bien que le 3. Là, Apocalypse a fait moins bien que Days of Future Past et Dark Phoenix a fait moins bien qu'absolument tout le reste. Donc on voit à quel moment quand même la saga, et c'est pas Jennifer Lawrence qui a décidé ça, c'est un truc de business, vraiment la machine s'emballe, du coup on copie Marvel, Jennifer Lawrence elle est au centre du truc, on prend tout le monde, on ramène tout le monde très vite, on rejoue les mêmes trucs, et le personnage de Mystique avec Charles Xavier et Magneto rejoue toujours les mêmes trucs. C'est franchement, c'est comique quand tu vois le personnage de Magneto qui affronte un traumatisme dans son passé, une femme sortie nulle part, elle est morte, du coup il a envie de se venger. Mais en fait mec, c'est le truc qui lui arrive depuis le début, il faut arrêter là, il faut arrêter les frais, sérieux quoi. Et c'est assez tragique. Et dans le dernier, dans X-Men Dark Phoenix, elle avait plus de contrat. Elle raconte que James McAvoy et Fassbender et elle n'avaient plus de contrat, ils étaient sur trois films, ils avaient fait leurs trois films. Et ils se sont dit vraiment, je reviens si tu reviens. Ah ben moi je reviens si tu reviens, ben moi je reviens si tu reviens. Donc elle disait à l'époque, la Fox ils sont dans la merde parce que s'ils veulent qu'on revienne, tout le monde va revenir ou personne ne reviendra. Et elle s'est sentie de revenir pour un peu boucler le truc parce que sinon son personnage il allait être éjecté totalement, donc il n'y aurait pas de fin à son arc de Mystique. Et aussi par amitié pour Simon Kinberg, donc le scénariste, pas sa réalisateur. Et c'est compliqué de pas le mettre en parallèle un peu avec, bon, on l'évoquait sur une autre note avec David Russell, sur ce qui se passe sur les plateaux et les comportements toxiques des gens, parce que Bryan Singer, qui est arrivé,
ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais.
Il était pas sur X-Men Le Commencement, et Matthew Vaughn, qui a réalisé Le Commencement, devait continuer à faire des films X-Men. Il voulait faire Days of Future Past en troisième épisode, avec une autre trilogie, et un deuxième épisode réalisé par quelqu'un d'autre, et Wolverine jeune. Ça, c'était son gros projet. Et la Fox et Bryan Singer ont dit, en fait, non, Days of Future Past, on le fait maintenant parce que c'est un coup de folie, tu vois. C'est vraiment genre le Batman vs Superman. Vas-y, on sort toutes les cartes maintenant. Il faut absolument surfer sur la vague Marvel. Et Bryan Singer, ce n'est pas un secret, a été, si on parle que des plateaux, c'est quelqu'un qui, il a fini par être viré de Bohemian Rhapsody. Il n'était pas professionnel. Et tout un tas de gens ont parlé. Jennifer Lawrence, Halle Berry, Hugh Jackman ont tous dit de manière plus ou moins directe qu'il était pas pro, qu'il arrivait pas préparé, qu'il s'absentait, qu'il était compliqué humainement, qu'il avait des problèmes d'addiction, que c'était un peu une bataille pour faire des films avec lui. Et Jennifer Lawrence a dit des années plus tard que c'était très désagréable comme expérience. Ouais. Donc je peux imaginer peut-être que Simon Kinberg se soit dit, ok, je vais faire un film, est-ce que mes potes seront là pour essayer de un peu que je récupère un truc qui visiblement lui tenait à cœur. C'est pour ça que Jessica Chastain aussi a signé pour ce rôle de merde dans Dark Phoenix, hein, il me semble. Donc il y a des raisons peut-être humaines aussi qui sont peut-être le revers de la médaille de ton Hollywood. C'est qu'à un moment tu te dis, tu fais des films pour quelles raisons? Pour être avec tes potes, pour faire plaisir à un pote, pour utiliser ton pouvoir pour rendre service à quelqu'un, pour rendre service au personnage. Le scénario est pourri, mais au moins elle aura une fin. Tout ça ensemble fait que c'est un peu fini, un peu dans le dans l'autre bout.
Ouais, bah après en même temps c'est sympa de se dire qu'il y en a quelques-uns qui malgré tout gardent ces marges de ces petites marges, on va dire, d'erreur pour se dire parfois ouais ça vaut le coup de effectivement bosser avec un pote. Parfois ça donne quelque chose de mieux finalement que de bosser simplement pour ce que le rôle est sur le papier, ce qui promet pas forcément de ce qui sera à l'écran. Ou pour le fric ou quoi, et de se dire voilà, il y a des acteurs pour qui c'est important effectivement de boucler leurs arcs, c'est sympa aussi, tu vois. Mais après c'est sûr que ça fait pas forcément des chefs-d'œuvre derrière, quoi. Mais
surtout quand t'arrives dans Dark Phoenix, effectivement les maquillages sont absolument dégueulasses, quoi. C'est honteux, alors que pourtant vu la thune et les talents qu'il y a par le passé dans les premiers X-Men, ceux de Bryan Singer, les maquillages de Mystique, je les trouve magnifiques.
Ouais.
Je trouve vraiment le design de ce personnage, il est génial. Peut-être aussi parce qu'on la voit peu, donc il y a plus de temps, c'était plus simple à gérer. Le fait est que quand t'arrives à Dark Phoenix, vraiment, elle est peinte en bleu et elle a quelques écailles collées sur la gueule. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, quoi.
Non, mais
c'est ridicule. Et
mais
en plus,
ça, enfin, sa mort.
C'est bon, ça. Voilà. J'ai repensé à toute cette scène de merde.
Ça fait
quoi.
Un peu genre Nolan qui choisit la pire performance de Cotillard dans Dark Knight Rises. Hein, c'est vraiment genre.
Donc, le film a tellement de problèmes. C'est vrai que là, ça dépasse Kinberg, ça dépasse tout le monde. Et la rachette de la Fox par Disney, le film, il y a eu des reshoots dans tous les sens. Donc on ne saura jamais, en tout cas pour l'instant, même si j'aimerais beaucoup savoir la réalité. Mais le fait est que ce film est une catastrophe industrielle, donc personne n'en est ressorti grandi, je pense. Certainement pas les comptes de la Fox Disney. Mais c'est quand même triste quand tu vois comment la saga X-Men avait été relancée avec X-Men Le Commencement, qui est largement apprécié par tout un tas de gens. Days of Future Past, qui est quand même une sacrée ambition narrative. Et puis après Apocalypse, et puis surtout Dark Phoenix. Donc ça fait quand même beaucoup de trucs qui se finissent un peu bof bof, quoi.
Alors par contre, si je peux soulever quand même un aspect un peu positif, on va dire, de ça, c'est que...
Non.
D'accord. Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Il y a des sagas de super-héros comme ça. par lesquels passent énormément d'acteurs, mais qui ont du mal parfois à renaître derrière, tel le Phoenix. Ça dépend lesquels, hein. Mais c'est vrai que il y a pas mal d'acteurs qui sont, tu vois, recrutés par l'écurie Marvel, etc., et qui, une fois qu'ils ont le label Marvel, ont du mal derrière à retrouver une certaine crédibilité auprès du public ou des autres productions.
Tu penses à qui? J'ai envie de savoir maintenant.
Non mais attends.
Ah, je croyais que t'avais des noms ultra précis en tête et que t'osais pas les dire.
Non mais un.
Scarlett Johansson par exemple.
Scarlett Johansson, Brie Larson, elle fait rien d'autre.
Brie Larson, c'est tragique. Hein,
ouais.
Brie Larson, en fait, elle a fait avant donc.
Ouais.
Mais même.
C'est dommage.
Elisabeth Olsen, tu vois aussi.
Elle est en train de se relever. Elle est en train de se relever.
Paul Bettany.
Elle fait pas mal compas Elisabeth Olsen.
Ouais, non, je pense que.
Non mais j'ai rien contre elle, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui étaient ultra prometteurs et qui avaient des carrières super intéressantes avant Marvel que maintenant tu vois plus dans rien, enfin ou peu, en tout cas si ce n'est les bouses Marvel un peu ou. J'ai oublié son nom, le brun là, qui est dans Crimson Peak aussi.
Ah oui, Tom Hiddleston. C'est vrai ça.
Oh, enfin, tu vois, il y en a beaucoup, je trouve. Une fois la case Marvel passée, c'est plus compliqué.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas passé la case Marvel, puisque Tom Hiddleston, il continue à faire Marvel, quoi.
Oui,
mais je vois ce que tu veux dire, ouais.
Tu vois, alors qu'elle, en parallèle, donc comme on le disait la semaine dernière, en parallèle des X-Men, elle a continué de faire plein d'autres trucs à côté. Et aujourd'hui, même si on évoque une passe un peu plus difficile, sa carrière s'est pas arrêtée là du tout. Par exemple, Sophie Turner, Dark Phoenix, ça y est, c'était le film qui allait la propulser après Game of Thrones et tout, bah elle a plus rien fait quoi.
Elle a fait Survive sur Kobe.
Ok, pardon.
Du coup, en effet, ça l'a pas propulsé.
Là, on insiste sur le négatif. Bon, il faut qu'on continue quand même dans le négatif pour qu'on boucle cette partie quand même. Parce qu'on n'a pas parlé de Passengers, Mother et Red Sparrow pour des raisons très différentes.
Disons-le quand même qu'il a noté que Mother était dans le négatif.
Oui, non, pour des raisons différentes. Tu vas te calmer tout de suite. Donc parlons des mauvais films dans un premier temps, donc uniquement Red Sparrow et Passenger. Dans le cas intéressant, je trouve là-dedans, plus que le film, c'est Passenger, ce qui est vraiment un pur véhicule, pas Oscar, mais juste à thune.
Ah merde,
ce truc est passé entre les mains de plein de gens et tu te dis n'importe qui d'autre aurait pu le réaliser, n'importe qui d'autre aurait pu l'interpréter, n'importe qui d'autre aurait pu le mettre en musique et l'écrire, tellement c'est l'impersonnel hollywoodien ultime, quoi.
C'est un peu le cas aussi de Red Sparrow d'une certaine manière. Mais oui, en effet, Passengers, c'était dans la blacklist, hein, donc de Hollywood, donc c'est un scénario.
Le nombre de trucs qu'on a vu dans les blacklists qui se sont révélés être des merdes, j'en ai dans la
liste.
Je
croyais
aussi
que c'était des bons scénarios, en fait. C'est les scénarios sur lesquels les gens veulent faire monter les enchères, quoi. C'est pas possible.
American Bluff était aussi sur la blacklist, enfin, bref. Ouais.
Hunger Games 3 aussi.
Mais X-Men Apocalypse aussi. Dinguerie, quoi. Non, mais en effet, c'était sur la blacklist et tout le monde voulait le plus ou moins. Enfin, ça a été un projet de longue date. Je sais plus qui voulait le réaliser, etc. Mais en effet, jusqu'au moment où c'est arrivé dans la. Enfin, il y a eu beaucoup d'actrices qui sont passées par le rôle avant Jennifer Lawrence dans les idées. Il y avait Rachel McAdams qui aurait pu jouer le rôle. Il y avait Reese Witherspoon. Il y avait Emily Blunt. En tout cas, dans les trois plus connus, il y avait elle. Donc bon, ça donnait pas forcément plus envie pour certaines, mais
non, mais tu vois, enfin, juste pour dire, là, on a évoqué pas mal de films. On dit même quand le film est pas parfait, ou même quand il est très bien, on sait que Jennifer Lawrence apporte énormément de choses. Là, c'est vraiment un film où je me dis, en vrai, que ce soit elle ou Emily Blunt ou whatever, peu importe.
Non, t'as raison. Ça va peut-être le seul où il y a cette particularité triste. Ouais.
Moi, je me dis quand même qu'elle apporte quelque chose, puisqu'en face, il y a Chris Pratt, hein, heureusement qu'elle est là. Mais passons ça. Ouais. D'ailleurs, Chris Pratt, encore, pas spécialement positif.
Mais réunion sur Chris Pratt aussi.
Ce sera autre chose, ce sera pas le même ton. Hein.
Non, mais tu vois, elle joue un rôle. Enfin, je trouve que le rôle était pas inintéressant, mais j'ai regardé comment le film était pitché à la base, et notamment comment il est pitché encore. C'est qu'en gros, il y a 5000 passagers qui sont dans ce vaisseau, qui doit voyager pendant 120 ans, etc. Et deux personnes se réveillent en même temps, 90 ans trop tôt, quoi. Ça, c'est le pitch, comment c'est le.
Donc, c'est pas du tout le film qu'on voit.
C'est pas du tout le film. C'est-à-dire que le film est. Enfin, ça aurait été intéressant si c'est vraiment ça le pitch, et que les deux personnes se réveillent en même temps, et qu'en fait, au fur et à mesure, il y en a une qui découvre qu'elle a été réveillée. Ouais. Trop tôt, et du coup le spectateur le découvrait en même temps, et puis en fait il se passe des autres choses, genre le vaisseau explose, quoi. Pas très
genre le vaisseau explose.
Non mais la fin c'est genre ils sont en train de se brouiller, et puis en fait il y a un problème, le vaisseau est en train d'exploser et Laurence Fishburne vient de se réveiller.
Ils se tapent dans les murs là.
Ou alors ils se font enfin cramer la gueule au moment où ils frôlent le soleil et qu'ils le regardent par la fenêtre en mode c'est trop beau, ça m'a tellement énervé.
C'était le seul problème. À quel moment tu fais une piscine comme ça dans un vaisseau? À quel moment ça vaut le coup d'avoir des vitres à ce moment là, quoi?
120 ans.
Mais tu trouves que du coup ça explique la piscine?
Ils sont censés dormir pendant
120
ans.
Non, mais la piscine avec des vitres qui donnent comme ça, mais à quel point c'est possible? Et à quel point tu dépenses de la matière pour ça, quoi?
Ouais, mais dans ce cas-là, le vaisseau, à quel point il est posé?
Je trouve que c'est la même science-fiction de merde que Minuit dans l'univers. Quand tu vois des vaisseaux, t'y crois pas du tout, on dirait une page Ikea. Juste avec des gens maquillés qui se baladent au milieu.
À la fin, il y a l'arbre.
Ah oui! planté dans on ne sait quelle terre, mais ouais.
Pour l'avenir.
Il n'y a pas que l'arbre, il y a l'horizon. Des poules aussi, je crois.
Oui, c'est vrai, oui, absolument.
D'où sortent les poules, la poule ou l'œuf, peu importe, il n'y avait rien. On en a moins.
Si, mais parce qu'ils ont une banque de sperme et tout aussi sur place.
Et on fait des les
de
poules avec
du sperme.
Du coup, j'imagine non, mais j'imagine qu'ils ont pris une forme d'arche de Noé de...
Oui, ouais, oui. Ouais.
En tout cas, ça fait un peu penser à la fin de Don't Look Up aussi sur un autre niveau, mais le
non,
film, l'arche et tout là.
Non, tu veux pas qu'on attaque Mother
et
l'attaque Don't Look Up, ça va pas le faire.
Passengers est raté pour beaucoup de raisons.
Mais, non, mais en plus, surtout que le pitch était vraiment incroyable. Mais tu sens, c'est ce que tu disais, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais sur Happiness Therapy.
Merci.
Le fait qu'elle ait une forme de naturel à venir embêter Bradley Cooper en face, à le regarder longuement dans les yeux pour lui dire merde ou je sais plus trop, un truc comme ça. Et j'ai la sensation qu'à ce moment, il y a eu les leaks de ses photos, etc. Et que du coup, elle a perdu cette forme de naturel. Parce que c'est ce qu'elle explique à ce moment-là, notamment que pour Passenger, la scène qu'elle a de sexe avec Chris Pratt, elle la redoutait énormément et qu'elle a dû boire de l'alcool avant pour la faire, etc., pour se détendre.
Compliment pour Chris Pratt.
Non, mais en fait, c'est un truc qui va revenir plusieurs fois dans
l'alcool.
L'alcool ou la prise de drogue, simplement. Notamment dans Don't Look Up, où elle a pris du cannabis pour la scène avec Chalamet, etc., pour se détendre, et c'est parce qu'elle sentait pas la scène. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant par rapport à sa gestion de son corps et de son physique, et même de sa nudité, tout simplement, à l'écran, par rapport à ce qu'elle était capable de faire avant que, justement, toute sa vie privée et sa vie intime, vraiment intime, pour le coup, soit balancé sur internet contre elle, contre son gré. Donc
alors là où je trouve que c'est le plus fou vraiment en revoyant Red Sparrow, c'est comment elle parle du film et des scènes de nudité. Et quand tu vois le film, c'est que quand elle a fait Red Sparrow, elle a dit Francis Lawrence, donc le réalisateur des Trois Hunger Games et qui n'est pas du tout de sa famille et qui a aussi réalisé Red Sparrow, lui a proposé, mais il savait que vu le sujet et vu le personnage, elle pouvait ne pas avoir envie. Donc ils ont eu une grosse discussion, ils ont parlé des scènes de nudité et il lui a dit je te montre tous les rushs et t'as le droit de dire non avant même que les producteurs et le studio le voient. Elle a jamais usé de ce droit, mais on voit qu'elle avait besoin, et c'est normal, d'une relation de confiance. Et en ayant ça en tête, tu vois la scène où elle se fait agresser, quasiment violée dans les douches, et la scène après où le KGB lui dit « En fait, tu vas te faire violer devant tout le monde parce que ça fait partie de ton job », et que la manière dont elle...
Ce film, oui, ça donne c'est pas vraiment envie pas
non, mais c'est...
Et la manière dont elle retourne la situation, c'est qu'en fait, elle empêche le mec qui allait la violer devant tout le monde de la déshabiller, elle se déshabille, elle s'assoit sur une table, elle écarte les jambes et elle dit « Bah vas-y ». Et du coup, évidemment, le mec, il perd ses moyens, c'est-à-dire il ne bande pas, donc elle l'humilie. Et quand tu mets ça en parallèle avec ce qu'elle dit sur le film, elle a dit vraiment, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne voulais plus forcément me montrer nu à l'écran, que j'avais un truc par rapport à ça et que peut-être j'allais refuser à cause du traumatisme, du délit des photos. Et du coup, elle a voulu reprendre en main et elle le dit de manière assez claire. Ce film, c'était une manière pour elle de reprendre le contrôle sur son corps, de savoir vraiment montrer ce que c'était le consentement et ce qui n'était pas du consentement et de dire en fait, c'est mon art, mon corps, mon choix, c'est moi qui décide. Et quand tu vois le film par rapport à ça, qui au demeurant n'est pas très réussi, je trouve que ça donne une espèce de dimension assez flippante sur ce que c'est d'être une star comme elle.
Non mais en plus là, moi ce que je trouve super flippant, tu vois, c'est que moi je trouve ça vachement intéressant que justement elle ait eu cette démarche et qu'elle ait essayé de voir le film à travers ce prisme, mais c'est que le scénario lui-même, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle elle peut vouloir justement reprendre le contrôle sur son corps, parce que ça raconte tout l'inverse. C'est vraiment le male gaze fois 10 000 avec que, alors c'est un peu ce que je disais, je trouve que toutes les séquences, on a l'impression que c'est des pitchs de scénarios problématiques à base de violences sexuelles, où vraiment on va mettre, alors la meuf on va la mettre dans telle situation, elle termine par être violée par telle ou telle personne, puis on change de, là cette fois-ci c'est dans les douches, bah on fait la même chose, puis là c'est à l'opéra, c'est la même chose, tu vois, enfin, et j'ai l'impression que c'est que ça, où on va essayer d'imaginer, mais vraiment les scènes avec Charles Trampling, c'est la honte, c'est tellement la honte je trouve, où... On fantasme une école dans laquelle, en gros, il faut apprendre à une gigabonasse à sacrément bien baiser, tu vois, ou alors au contraire à bien se faire violer en ayant l'air d'aimer ça. Et genre, c'est, tu vois, c'est une perversité dans la conception de la chose où vraiment, je trouve que ça fait vraiment des sous-porno, quoi. C'est vraiment, c'est ridicule. Moi, je regardais ces scènes-là, je me disais, mais là, j'ai l'impression d'être dans le cerveau d'un mec de 12 ans, un futur psychopathe et tout. Genre.
Mais c'est que le film a quelque chose de ultra désuet. On dirait qu'il aurait pu être fait dans les années 90 par Adrian Lyne, parce que il y a quelque chose de hyper kitsch dans vraiment l'imaginaire de l'espionne russe, donc l'actrice américaine qui dit yes I am gonna be ready avec son accent poivre là, et tu dis mais du début à la fin, mais je sais qu'elle est pas russe, du coup tu me mets tout le temps à la face que c'est de l'artifice et tout le monde est ultra bien coiffé, maquillé, et la photo est un petit peu grise et c'est toujours mystérieux, il y a toujours des vieux dégueulasses, il y a des dossiers secrets et tout, et c'est un scénario à tiroir, on dirait vraiment un épisode d'Alias quoi, et tiré, mais sauf qu'Alias c'était bien quoi.
Ouais, en plus, tu me diras, Red Sparrow est forcément un peu meilleur, mais en plus, il est quand même sorti très peu de temps après Anna de Besson.
Et il est sorti avant même. Quoique, Kif Kif, à mon avis.
Je crois que Anna, c'était 2019 et Red Sparrow, c'est quand?
2018.
Bon, c'est la même période, quoi. Oui, en tout cas, les gens disaient que c'était le film Black Widow à l'époque, je m'en rappelle, parce que comme c'est une espionne russe et qu'elle est dans un orphelinat chelou, là.
Mais du coup, tu vois, à cette époque-là, on avait l'impression que voilà, c'est le truc, c'était de
le
faire ce genre de. Surtout qu'en plus, ça arrive quelques années après Atomic Blonde, tu vois, où c'est pareil, c'est un peu le même genre de modèle.
Oui,
la
à l'époque,
super espionne.
Jennifer Lawrence disait fait chier, tout le monde va nous dire qu'on fait comme Atomic Blonde alors que notre film, c'est pas ça.
Bah, quand même.
Je préfère Atomic Blonde quand même. Hein.
Oui, ouais.
Mais oui, je trouve que ce qui est un peu triste et le point commun entre Passengers et Red Sparrow, c'est ça, c'est que les films, je les trouve vraiment très peu intéressants, assez impersonnels, assez fades, assez lisses. Alors, ou alors quand ils ne sont pas, c'est pour les mauvaises raisons. Mais je trouve qu'il y a pas grand, il y a rien de mémorable là-dedans et même pas du. À la limite, X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, il y a quelque chose de tellement nul que ça devient un petit peu divertissant et assez amusant de te dire à ce niveau de thune et de saga, peut-être que la machine était inarrêtable, mais Passengers et Red Sparrow, mais pourquoi faire ça en fait? Je comprends pas du tout ce qui les a menés à part la thune, parce que sur Passengers, elle a été payée cher et que c'était du coup un blockbuster total dédié à elle, quoi, quasiment.
Ouais, non, mais Red Sparrow, c'est, je pense clairement, parce que c'était un film qui était, enfin, en tout cas, le scénario de base était. Enfin, tout le monde voulait le faire, quoi. Il y a eu Darren Aronofsky qui a failli le faire, donc on en reparlera, mais ouais. Et un certain David Fincher avec Rooney Mara.
Il était lié à combien de films, lui?
David Fincher, on sait plus. Hein. Il a été lié à X-Men Apocalypse.
À partir du moment où on se dit qu'il a failli faire World War Z2, on se dit que tout est possible.
Oui, voilà, tout est possible.
Rien n'est envisageable.
Donc, non, c'était un truc qui date depuis 2013. En fait, dès qu'il est sorti le roman, tout le monde a voulu. S'est dit, ouais, ça peut être super. Après, de là, j'ai pas lu le roman, donc je sais pas à quel point c'est fidèle ou pas fidèle. Mais je sais pas, du coup, à quel point ils ont rendu ça une base. Et à quel point le projet de base était super.
Et sur Passengers, ceci, c'est un peu intéressant parce que comme le film a été mal accueilli à l'époque, Jennifer Lawrence, juste après, elle le défendait. Elle disait, j'en ai pas honte, je suis juste déçu de pas avoir eu cette idée que des critiques ont ressorti et dont tu parlais, Alex, c'est de retourner le scénario et de l'avoir du point de vue du personnage de Aurora et que ça commence avec elle, qui se fait réveiller et qui après, tu apprends comme elle que Chris Pratt, en fait, c'est un mec qui est un peu un cauchemar.
C'est un mec un peu toxique, ouais.
Du coup, ça aurait été mille fois plus passionnant.
Oui, mais t'as jamais entendu cette théorie parce que plein de gens en parlent en disant, mais le film bien, il est là, en fait.
Et même surtout à la fin, en fait, pour spoiler, de toute façon, c'est pas un spoil parce que de toute façon, c'est un scénario qui n'existe pas. Mais en gros, tous les. À la fin, quand le voyage, enfin, le vaisseau commence à exploser, à mourir, quoi. Tous les pods devaient être rejetés par le vaisseau dans l'espace.
Ah, d'accord.
Et en fait, ils essayaient de l'arrêter, et en fait, ils arrivaient pas. Et donc, à la fin, tous les pods étaient dans l'espace, perdus pour toujours. Et donc, je sais plus exactement ce qui se passe à la fin, mais en gros, ils se servaient justement des échantillons d'ovules et de sperme pour créer une forme de nouvelle vie avant qu'ils meurent, pour essayer de relancer la planète. Mais en vérité, c'était quand même bien plus intéressant. Il y avait un vrai drame qui jouait, quoi. À la fin, bon, là, c'est juste, le vaisseau, il est en train d'exploser. Mais en fait,
c'est ridicule,
bien.
Comme d'un seul coup,
à la fin,
tout commence à dérailler. Ils ont 12 minutes pour tout faire. Enfin, c'est vraiment.
Mais moi, le plus marrant, je pense que c'est quand Andy Garcia se réveille et qu'il voit l'arbre, quoi. Moi, ça me fait rire parce que dans le scénario de base, ils essayaient d'aller réveiller le commandant. Donc, le commandant qui est joué par Andy Garcia, enfin, en tout cas, bon, comme si c'était Andy Garcia qui se réveillait, quoi. Et en fait, ils allaient le voir. Bon, c'est un peu drôle, même si c'est tragique, hein. Mais en gros, ils se disaient, t'as notre dernier truc, c'est d'aller réveiller le commandant, il faut qu'on le réveille. Et en fait, le commandant, ils allaient le réveiller, ils arrivaient devant son pod et ils le réveillaient, ils l'ouvraient les yeux et là, le pod, il se faisait éjecter. C'était genre.
C'est vrai que ça aurait donné beaucoup plus d'ampleur à dire qu'ils sont les deux derniers survivants. Parce
Bah là, en fait, il y a même. En plus, il y a Laurence Fishburne qui est là, mais qui est pas bien.
Qui joue Laurence Fishburne, quoi. Vraiment. En fait, ce que je déteste dans ce film-là, c'est que tu vois à quel point ils ont pris soin de bien coiffer et bien maquiller les deux, surtout Jennifer Lawrence. Donc elle passe son temps bien coiffée, et il y a un défilé de mode à chaque fois. Tu sais, je trouve ça ridicule, c'est vraiment le kitsch de la SF des années 70, mais avec les moyens des années 2020. Du coup, c'est ringard au possible. Et alors moi, ça m'amuse parce que c'est de la SF, donc dès que c'est dans un vaisseau, même si c'est un AV, ça m'amuse, mais ça reste quand même bien nul.
Ouais, mais même la bande-annonce, pour moi, la bande-annonce, elle est vicieuse dans sa manière dont elle vend le film. C'est vraiment, il me semble qu'un des premiers plans de la bande-annonce, c'est Jennifer Lawrence qui sort de la piscine en maillot de bain. En tout cas, c'est un des ballons de la.
Ça rend très bien.
Est en mode bon bah voilà, c'est en fait vous voulez miser le truc sur Jennifer Lawrence, elle est très jolie, etc. Et de fait, vous pensez que ça va attirer un certain nombre de spectateurs.
Tristesse quoi. Bon, c'est peut-être là qu'on arrive à parler de vrai cinéma avec Mother.
Oui.
On va pas parler pendant longtemps, mais ce qui est intéressant, je sais que vous en foutez de ce film, mais
non,
ce qui est intéressant,
c'est
que.
Ouais. Si, juste un truc sur Passenger. Il faut savoir qu'elle est très amie avec Adele, Jennifer Lawrence, et que Adele lui avait dit que c'était une très mauvaise idée de faire ce film, parce qu'elle avait l'impression que les films de SF, c'était les nouveaux films de vampires.
On en revient à Kristen Stewart encore une fois.
Voilà.
Et du coup, elle a dit qu'elle aurait dû l'écouter. Voilà.
Et du coup, à chaque fois, maintenant qu'elle reçoit un scénario, elle le fait d'abord lire à Adele.
Bah, qui est une grande amie avec elle. Elle va faire des karaokés dans New York, dans Greenwich Village.
C'est
avec
ça que
elle.
Tu dis que t'es pas Jennifer Lawrence. Hein. Tu peux aimer les pattes et regarder la télé de merde comme elle, mais tu n'es pas Jennifer Lawrence. T'as pas les mêmes potes.
Non, bah, c'est sûr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Donc Mother, ce qui est intéressant au-delà du fait que c'est un film génial, c'est que à ce moment-là, il a été très mal reçu quand il a été montré à Venise, il a été un bide en salle, il a pas été franchement bien accueilli par les gens, même s'il a beaucoup divisé. Et je me disais, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'elle a pas un peu aussi payé le prix de à quelle image elle est associée ? Parce que dans la semaine dernière, on parlait du fait que même Happiness Therapy, qui a un côté très dramatique, c'est un feel-good movie. Tu ressors à la fin, t'as le sourire. Mother, t'as pas le sourire. Je l'ai montré à mon copain qui a vécu une expérience assez extrême en voyant ce film-là parce que je l'avais pas prévenu, donc depuis il faut que je le prévienne quand je lui montre un film qui est aussi extrême que Mother. Ça a vraiment marqué un tournant dans la relation, donc ça m'a marqué beaucoup de me dire ce film-là peut vraiment retourner la tête, tu vois, l'esprit et la sensibilité de quelqu'un. Et ce que je trouve une des qualités du film, c'est vraiment il te fait ressentir des trucs extrêmes. Le fait est que est-ce que le public de Jennifer Lawrence était prêt à un truc comme ça? Tu vas voir un film avec Jennifer Lawrence, peu importe comment c'est vendu. En plus, Mother a un pitch, enfin le film est impitchable, donc en fait le pitch est extrêmement vague, les images étaient vagues. Tu dis ok, c'est l'histoire d'un couple avec des étrangers qui arrivent chez eux, ça se passe mal. Ok, c'est pas du tout ça le film, hein, mais t'es obligé de le vendre comme ça. Donc plein de gens de y aller en se disant oh ben j'espère que c'est aussi edgy que Serena, hein, et en fait il y a rien qui prépare à ça, tu vois. Donc peut-être que ça explique aussi pourquoi
moi je me rappelle que j'avais eu super envie en voyant la bande annonce, mais effectivement parce qu'elle te vend un thriller en fait voilà sur Michelle Pfeiffer et c'est qui le gars
Ed
déjà
Harris.
Ed Harris du coup, où tu te dis putain, alors tu sens que ça va être un peu du home invasion mais tu sais pas à quel point, et tu penses que ces gens là sont hyper mystérieux et qu'ils vont être un peu le centre de l'intrigue, puis en fait ouais pas du tout. Et je pense qu'effectivement, inconsciemment, même si je m'attendais à un thriller et comme c'était Darren Aronofsky, à un truc un peu chelou, c'est vrai que parce que Jennifer Lawrence, sans doute que je m'attendais pas, pourtant je vois des films d'horreur, tu vois, j'en vois beaucoup, sans doute que je m'attendais pas effectivement à quelque chose d'aussi violent. Et c'est vrai que moi, le home invasion, ça peut vite me mettre un peu mal. Et surtout qu'en fait, là, le film ne te laisse absolument aucune respiration. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu commences à voir le home invasion qui arrive, moi je suis tendue déjà parce que je me dis putain, je pense à tous les moyens que moi du coup je mettrais en place pour me tirer de là. Et en fait ouais, c'est de pire en pire et il n'y a jamais de respiration, jamais tu souffles un peu. Et du coup ouais, je suis sortie de la salle en aimant vraiment pas le film. Alors aussi parce que je trouve qu'il est extrêmement lourdingue dans ses métaphores et que bon, il y a plein de choses qui ne vont pas, je trouve. Mais par contre, c'est vrai que je suis consciente aussi qu'à mon avis, j'en ai eu un rejet parce que je l'ai trouvé très dur. Et qu'aujourd'hui, je me dis, en même temps, c'est quelque chose qu'il réussit. C'est quand même une qualité, c'est de m'avoir mis plus mal qu'énormément de films qui n'ont pas réussi à me faire ressentir ce genre de choses, quoi.
Et que n'importe quel film avec Jennifer Lawrence, quand vraiment tu te dis,
si
tu étais voir ça, vraiment,
mais
je pense que
voilà, pareil, quoi. Et je pense qu'effectivement, elle a des fans qui n'avaient pas envie de la voir dans ce genre de situation, quoi.
Ah ouais, bah même, je pense qu'il y a des fans qui savaient pas qu'elle serait dans cette situation. Ils y vont, ils sont, ah, je vais voir le nouveau Jennifer Lawrence, ça va être trop cool, je suis trop fan de Hunger Games. film, ça, bah alors là, tu vas déchanter.
Ouais. Tu imagines le truc qui est sorti entre après X-Men Apocalypse et Passengers et juste avant Red Sparrow, quoi. Donc la meuf, tu l'as vu dans Joy, tu l'as vu dans Hunger Games et tout. Tu dis, ah, sa carrière d'adulte, elle va jouer des rôles sérieux, mais t'étais pas prêt pour Mozart, quoi.
Ah, ouais, non, c'est sûr,
mais même l'affiche où elle, voilà, c'était une affiche temporaire, mais l'affiche où elle tenait un cœur qui sortait de son propre cœur. Et que, bah, de toute façon, toute la promo était vraiment excellente pour le coup.
Ouais, c'est compliqué de vendre un film comme ça.
Et moi, je suis pas très fan du film pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que je trouve que le propos est lourdin et que le scénario est vraiment Aronofsky, j'ai envie de dire, c'est genre oh, je suis plus intelligent que tout le monde, oh, regardez, alors que non, c'est pas super, super intelligent, frère, donc ferme ta gueule. Mais
Aronofsky.
Non, mais vraiment Aronofsky, faut pas m'en parler, ça m'énerve et tout. Mais par contre, je trouve que en termes de mise en scène, c'est vraiment prodigieux, enfin la tension que ça provoque. Et je trouve que le film est très très fort dans sa manière de pas de diviser dans forcément les avis, mais juste dans les réactions que tu peux avoir pour l'avoir vu tout seul. La scène du GIGN qui débarque et qui commence à tout péter là, bon, je spoil pas vraiment parce que vous pouvez pas savoir où on
c'est
est
clair,
de toute façon.
Ouais, dit comme ça. Mais,
qui commence à tout exploser la maison et j'étais en mode what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'étais je ne sais pas ce qui arrive, je ne sais plus. Et après je suis allé le revoir avec quelqu'un et la personne à ce moment-là a juste explosé de rire. Elle n'était plus capable de se retenir, elle est en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre je déchante et elle, pendant deux minutes elle était en fou rire absolu. Et mais voilà, les différentes réactions sont quand même absolument dingues sur ce film. Jennifer Lawrence, pour moi, elle est vraiment incroyable parce qu'en fait le film certes repose sur une mise en scène absolument dingue et notamment aussi un travail sonore stratosphérique, mais Jennifer Lawrence, vu qu'elle porte tout le film, sachant que Javier Bardem, moi je suis pas très fan, mais qu'elle fait quand même face à des poids lourds de l'industrie hollywoodienne, hein,
plus Jack Pfeiffer, encore une fois.
Oui, non, mais Ed Harris, bon, Ed Harris, les gens en disent moins, mais en vérité c'est quand même Ed Harris et Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, et je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres aussi qui débarquent. De toute façon, il y a tellement de personnages.
Oui, oui, c'est les quatuors au début, ouais.
Et le fait que, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a, enfin, elle a une relation toxique dans, avec son personnage de Javier Bardem, mais en même temps, il y a une relation plus ou moins toxique qui s'est mise en place parce qu'elle était, je pense, avec Aronofsky, enfin, elle était avec Aronofsky. À l'époque, le réalisateur, elle était avec lui en couple aussi, et la relation s'est plus ou moins bien finie, il me semble. Enfin voilà, c'était un peu compliqué apparemment. Donc je pense que vu que c'était sa compagne sur le tournage qui lui faisait faire des trucs peut-être plus complexes qu'il n'aurait donné à une actrice classique, etc. Donc je pense que c'était pas facile pour elle, et qu'en fait, mine de rien, elle fait un travail exceptionnel. Moi je trouve vraiment le film au-dessus grâce à elle. Enfin, si elle était pas là, vraiment, je pense que le film, je détesterais, quoi.
Et il raconte qu'ils ont fait des répètes pendant plusieurs mois dans un entrepôt pour vraiment caler la mise en scène à la Dogville, en fait. Et que pendant toutes les répétitions, il s'est dit, elle est un peu en sous-régime, mais c'est normal parce qu'on répète. Et il a compris le personnage et vraiment le talent de Jennifer Lawrence sur le plateau où elle s'est donnée à fond. Je crois qu'elle s'est même déchiré le diaphragme,
elle s'est
déplacé une côte, c'était extrême de chez extrême.
Elle s'est blessée,
Et ils lui ont mis en place une tente des Kardashians, parce qu'elle a toujours dit qu'elle était fan des Kardashians, donc elle avait une tente, safe tente, quoi, où elle se mettait vraiment coupée du monde avec des trucs des Kardashians qui passaient en mode télé-réalité, parce qu'elle avait besoin d'une...
D'un sas de compression.
Ouais, t'imagines de jouer des trucs aussi extrêmes, vraiment, dans le film. Moi, je trouve qu'elle est absolument prodigieuse, quoi. C'est effectivement, on revient à un film où je me dis, c'est Jennifer Lawrence qui fait le film et je ne peux pas l'imaginer quelqu'un d'autre.
Oui.
Ouais, en tout cas, il y a un truc particulier apporté par cette actrice-là, contrairement à Passengers, où n'importe qui aurait pu être coiffé avec des talons comme ça, quoi.
Bah, c'est clair.
Là, on retrouve un truc intense, mais c'est vrai qu'elle a pas été bien accueillie, qu'il a été un méga bide et qu'à l'époque, ça a été très médiatisé. Jennifer Lawrence se prend un méga bide.
Ah oui, bah c'était en compétition à Venise et tout le monde l'attendait au tournant, quoi, parce que c'était un peu le retour de Jennifer Lawrence dans un grand grand rôle, on va dire d'auteur, avec Aronofsky. Oui. C'était Aronofsky qui revenait aussi à un vrai film d'auteur, puisque juste avant il avait fait Noé, donc il était quand même pas voilà, c'était un autre genre de film. Et il s'est fait conspuer, genre hué à la projo, l'avant-première, quoi. Donc,
comme
c'est
Under
ce qui
the Skin, un autre film.
C'est vrai.
Avec un personnage féminin qui a un peu divisé.
Voilà, mais c'est quand même assez rare que ça arrive en festival, qu'un film se fasse huer le jour où il y a ben, les acteurs et les actrices qui sont présentes, quoi. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et oui, en effet, elle a eu quand même tellement de. Enfin, elle s'est tellement mise dans le rôle qu'apparemment, un jour, elle a quand même été mise sous oxygène un peu supplémentaire parce qu'elle était pas bien, quoi.
Ah, putain.
Donc, du coup, ça transparaît à l'écran parce que,
genre, je donne tout, quoi.
Mais au moins, en tant que, tu vois, au niveau de sa carrière à elle, ce qui est intéressant de se dire, quoi qu'on pense du film, et même s'il a mal marché, c'est que, a priori, elle retrouvera sans doute pas de rôle qui aille dans des extrêmes pareils parce que ça n'arrive quasiment jamais. Et elle l'aura fait et elle aura prouvé qu'elle était capable de le faire très bien, quoi. Donc bon, c'est toujours un accomplissement, on va dire, en soi. C'est un petit peu le truc positif à en retirer, quoi.
Et donc là, on est passé, on a fini Hunger Games, Joy, X-Men Apocalypse, Passengers, Mother, Red Sparrow, X-Men Dark Phoenix. Donc il y a quand même un truc qui se passe, ça va faire une petite pause qui se voit pas trop, mais en fait, il y a un moment, elle a vraiment sciemment décidé de faire une pause. Et surtout, ce qui est intéressant, je ne savais pas, c'est qu'en 2018, elle a quitté son agence.
Ouais.
Et en fait, ça explique pas mal des trucs qu'on vient de dire, parce qu'elle a quitté son agence, qui est une grosse agence, post-MeToo, c'est pas un hasard, puisque pendant MeToo, il y a beaucoup d'actrices et de personnalités qui ont dit à quel point il y avait une complicité des agences pour organiser ces rendez-vous.
Dans les chambres d'hôtel.
Qui finissaient très bien. Mmh. Et surtout, elle disait, j'ai découvert que plein de cinéastes me contactaient et que l'agence faisait de barrage. Mmh. Et elle dit... Je me suis laissé faire pirater ma carrière, en fait.
C'est ça, c'est ce qu'elle dit.
Et ça, c'est terrible, je trouve. Donc, elle a quitté l'agence, elle a décidé de bosser sans agence, juste avec son manager. Et la même année, comme de par hasard, elle a fondé sa propre boîte de production qui s'appelle, alors le nom est assez drôle, c'est Excellente Cadaver, avec son ami Justin Polsky, qui est une amie de longue date d'elle, de sa jeunesse. Donc, c'est vraiment exactement ce qu'on pourrait définir par reprendre le contrôle de sa carrière. Donc, tu dégages les parasites, tu reprends le contrôle pour vraiment peut-être trier tes scénarios. Et des années après, quand elle est revenue avec Don't Look Up, elle a fait une grande interview avec Vanity Fair qui était assez intéressante parce qu'elle parlait tout ça de manière extrêmement sincère. Et elle disait, en fait, il y avait une telle célébrité, une telle renommée que je finissais par me sentir normal que sur les tournages où, en fait, c'est le seul endroit où on me traitait normalement, comme une actrice et pas une star dans la rue en hurlant et tout ça. Et elle finissait par se demander pourquoi elle faisait les films, pour être dans un environnement un peu réconfortant ou parce que le film, elle voulait le faire. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle a un peu arrêté et que ça explique. Bon, c'est compliqué de pallier ce genre de paroles à des trucs comme Passengers, tu vois, qui est vraiment le blockbuster ultime impersonnel. Et donc suite à ça, elle s'est dit « Ok, je fais une pause, je fonde ma boîte de production, je choisis les films moi-même, je m'associe avec ma meilleure amie ou une de mes amies et comme ça, je peux arrêter de faire Passengers et Red Sparrow. » Et on voit à quel point depuis ça a changé les choses, puisque son premier gros film après cette rupture et cette mini-pause, ça a été Don't Look Up avec Adam McKay, qui est un réalisateur qu'elle adore depuis toujours parce qu'elle est fan de Frangin malgré lui. Malgré eux,
bon, je sais plus, mais en tout cas, voilà. Mais oui, mais c'est exactement ce qu'elle disait, parce que pour Don't Look Up, toi tu parlais de l'interview pour Don't Look Up, mais elle en avait fait une aussi juste après pour Cause Away avec New York Times.
Ouais.
Et c'est ce qu'elle disait justement, c'est qu'après X-Men Dark Phoenix, elle avait l'impression d'être une célébrité plutôt qu'une actrice. Et du coup, en fait, elle se sentait si isolée d'une certaine manière, par rapport, enfin, en tout cas, si déconnectée d'une forme de réel en étant autant célèbre et autant tout le temps je suis une célébrité, etc., qu'elle avait peur de ne plus être capable de jouer des rôles justement, normaux en effet. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a fait une déconnexion, d'autant plus qu'elle a eu des à ce moment-là elle a pas encore connu ses drames, mais juste au début des années 2010 elle avait fait une première fausse couche, donc à 21 ans. Alors elle voulait pas le garder, mais bon, quand même ça reste une fausse couche. Donc c'est quand même assez triste. Et elle en a fait une deuxième justement juste avant Don't Look Up, ou pendant Don't Look Up, je sais plus. Ce qui non plus est pas franchement facile à vivre, quoi. Donc je pense qu'elle a aussi mis une forme de pause à sa carrière, parce que Don't Look Up, ça a commencé assez tôt, mine de rien. C'était un projet qui a commencé tôt, qui a été plus ou moins monté avant le Covid, mais que Adam McKay a modifié justement par rapport au Covid, puisque le Covid était chose incroyable, en fait, une manière assez intrigante de pouvoir raconter la même chose que lui, mais en ayant des informations réelles de comment la Terre réagirait. Donc il a dû réécrire son scénario, mais en effet, Don't Look Up, pour moi, c'est en fait ce qui est intéressant avec Don't Look Up, c'est que c'est je trouve qu'il y a un personnage très intéressant, elle joue un personnage très intéressant, Jennifer Lawrence, puisque toute l'intrigue naît de sa découverte, en fait, et que c'est comment elle va en être dépossédée vis-à-vis du personnage de DiCaprio, donc qui va être invité sur les plateaux pour parce qu'il marche mieux sur les plateaux, il fait plus vendre, en fait, tout simplement de l'audience, etc. Probablement, apparemment, plus crédible pour certaines personnes juste parce que c'est un homme. Et mais d'une certaine manière, elle, quand elle dit la vérité, du coup, personne ne la croit, etc. Ne même pas ses propres parents, avec lequel, d'autant plus dans la vraie vie, elle s'est plus ou moins distancée par rapport justement à ces questions d'avortement, notamment, puisque ses parents sont républicains dans le Kentucky, ils sont des trumpistes par ailleurs depuis les années 2016, tout ça, et que elle ne comprend pas comment ils peuvent être comme ça par rapport à elle, ce qu'elle a vécu elle-même en tant que femme, etc. Donc il y a vraiment toujours des éléments qui viennent corroborer avec sa vie réelle dans ses nouveaux projets. Et donc Look Up, c'est intéressant qu'elle soit d'autant plus dépassé par le sujet qu'en fait tout ce qui est intéressant par rapport à cette découverte, c'est-à-dire qu'en fait sa découverte va permettre potentiellement de sauver le monde en théorie, c'est-à-dire voilà, elle a découvert un truc qu'il faut absolument qu'on sache, et en même temps ça va toujours être pointé du doigt puisque la comète est nommée de son nom de personnage. Et que du coup, en fait, c'est à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle, c'est juste que personne ne fout rien.
La comète
et
du nom, c'est vrai que c'est drôle.
Voilà. Et donc, en fait, tout le monde dit, c'est la comète a ton nom, donc c'est ta faute, en fait, c'est toi et tout. Mais en fait, elle n'obtient aucun des mérites de... C'est grâce à elle qu'on a découvert, etc. Et c'est intéressant vis-à-vis de son parcours de femme, qu'elle joue, un personnage féminin qui soit bousculé, justement, par ces questions-là, dépossédé de ses propres découvertes, etc.
Et puis elle tourne ce film, elle a 30 ans, 10 ans après Hunger Games, donc tu vois le chemin parcouru, le genre de rôle qu'elle choisit pour le début de sa trentaine.
Moi je trouve ça hyper intéressant en termes de choix de rôle, mais que ce soit aussi la période à laquelle du coup elle se révolte un peu contre son agence et qu'elle crée sa boîte de prod, parce que jusque-là, ce qui avait été beaucoup beaucoup mis en avant, c'est que c'était une actrice super jeune qui jouait des rôles trop matures pour elle, mais que justement elle était capable de les jouer. Et en fait... comme elle arrivait à un stade où elle n'avait plus 20 ans, elle était loin d'être vieille évidemment, mais qu'elle n'avait plus 20 ans et qu'à Hollywood ça compte, il a fallu qu'elle réussisse à faire projeter d'autres choses sur elle, parce qu'elle pouvait plus être la jeunette qui jouait des rôles plus matures alors que c'était vraiment son image de marque, quoi. Donc c'est comme si là, tout à coup, ouais, avec la trentaine, il fallait qu'elle invente autre chose. Et pour le coup, aussi bien Don't Look Up qu'après le challenge, elle joue des rôles où là, pour le coup, c'est presque des nanas qui ont des looks très ados, un peu, enfin, qui sont un peu coincées dans l'adolescence par rapport à son véritable âge. Donc c'est marrant comme elle a pris le contre-pied un peu de ce qu'il avait lancé, on va dire.
Parce qu'une des scènes les plus drôles du challenge qui a été vachement mise en avant dans la promo, c'est quand elle passe le casting, qu'elle rencontre les parents, et elle dit, oui, bien sûr, j'ai pas encore 30 ans, j'ai 29 ans. Enfin, je les ai eus il y a un an. Enfin, deux. Oui. En fait, tu te rends compte qu'elle a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans de plus que l'âge qu'elle demandait, parce qu'à chaque fois, elle dit, oui, enfin, presque, l'année dernière, plus un an. Enfin, presque un an de plus. En fait, c'est très drôle, quoi. Donc, elle fait croire aux parents qui sont pas dupes qu'elle est beaucoup plus jeune, alors que quand elle tournait American Bluff, tu disais, mais elle a quel âge? En fait, elle est censée jouer quel âge? Je comprends pas. Dans Kinesse Therapy, elle est plus jeune, elle est plus vieille. Donc, c'est vrai que c'est marrant, cette manière qu'elle a de jouer de ça. Et, c'est vrai qu'en tant que productrice, donc après, Don't Look Up, avec sa boîte de prod, elle a fait Causeway, un film indépendant où elle joue une vétéran qui revient chez elle en...
fauteuil roulant.
J'ai cherché l'état dans lequel elle était.
C'est un état.
En Louisiane,
le lieu,
en fauteuil roulant.
C'est ça. Elle est à la Nouvelle-Orléans. Elle est en fauteuil roulant, mais pas parce qu'elle a plus de jambes, c'est juste parce qu'elle est, elle est pas bien. Quoi.
Traumatisme, quoi.
Voilà, elle est en syndrome PTSD, syndrome post-traumatique, en effet, en PTSD.
Et donc, elle essaie de se réapproprier sa vie, de reprendre un peu possession de l'existence dans cette petite ville, dans la maison de sa mère qu'elle lui a léguée. Et dans le challenge, rien à voir, elle joue. Alors, une femme qui est aussi isolée dans une maison qui appartient à sa famille et qui est complètement paumée, qui essaie un peu de reprendre le cours de sa vie, il me semble, et elle a besoin de thunes parce que c'est une chauffeur Uber et elle a tellement de problèmes de thunes qu'elle répond à une annonce de parents riches qui essayent de trouver une fille qui vont coucher avec son gamin, avec leur gamin qui est vierge, parce qu'il est tellement loser qu'ils veulent l'aider à rentrer à la fac sans être un loser.
C'est ça,
ça, j'ai bien pitché.
Ouais,
que...
c'est ça.
Incroyable, quand même.
C'est aussi chelou que ça, oui.
Donc, deux rôles qui n'ont absolument rien à voir. Et là, tu vois, c'est quasiment comme si elle s'était dit, je sais pas à quel point c'est conscient, ce genre de choses, c'est facile à dire après coup, mais d'un côté, c'est vraiment le parfait film indépendant, film d'auteur à performance, qui n'est pas justement dans la performance, parce que c'est un rôle qui est assez calme, c'est pas la démonstration, c'est un rôle avec beaucoup de silence. Moi, ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est tous les moments du quotidien, les rituels, quand elle nettoie les piscines, où elle est assise à côté du mec, et ils discutent pas, et ils essayent juste, le temps qui passe, quoi. Le temps qui passe, et qui essaie de construire ou reconstruire les choses. Et de l'autre, le challenge, qui est la comédie super vulgaire, avec des gens qui doivent baiser, on dirait du post-American Pie, où l'enjeu, c'est le sexe, l'enjeu, c'est le mensonge. À un moment, ça va être révélé, il y a de l'argent, enfin. Le truc ultra vulgaire de loin, comment tu réussis à tenir ça sans en faire un truc qui est ultra gênant et cringe? Et elle le fait plutôt bien, parce que c'est cringe, mais il y a quand même des moments que je trouve absolument dingues. Je sais qu'on a déjà discuté de la scène de nudité frontale à la plage, qui te dit, mais c'est hallucinant, beaucoup plus que Red Sparrow. Je me dis, avec le recul, ce truc-là, c'est incroyable qu'elle ait choisi de faire cette scène.
Tu vois, mais là, moi, je trouve que c'est vraiment la séquence dans laquelle, cette fois-ci, elle choisit réellement de se réapproprier sa nudité et sa nudité à l'écran et son corps. Parce qu'en plus, là, donc, du coup, elle est productrice, donc elle est, évidemment qu'elle maîtrise, du coup, plus ou moins la manière dont ça se passe. Même si dans une vidéo, Seriously, elle raconte que cette scène a quand même été tournée à New York en hiver. Et que du coup c'était pas super d'être un wipe, mais où là pour le coup du coup elle utilise son corps et sa nudité comme des éléments de grotesque vraiment pour faire rire, et à aucun moment la mise en scène n'est là pour la mettre en valeur de manière sensuelle. Son corps n'est qu'élément comique comme pour aller dans le reste de la scène, et c'est tellement rare, surtout quand on s'est fait connaître aussi pour sa beauté et pour son corps, etc. J'ai trouvé ça tellement malin, tellement marrant qu'elle fasse ça, quoi.
Et c'est inattendu, quoi. Quand le truc arrive, tu fais, mais what? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Puis ça devient tellement extrême parce qu'elle poursuit les autres, elle leur jette des trucs dans la gueule pour les arrêter en pleine nuit sur une plage, c'est tellement
absurde. En criant comme, comme un
chartier. Et elle
chartier.
Leur met des coups, non, elle les tape pas après, enfin, c'est ultra, bien. Ultra
c'est,
méchant.
C'est possible,
quoi.
C'est possible, ouais. Non, mais oui, son corps n'est jamais mis en, enfin, il n'est jamais sublimé, mais justement, c'est pas du tout l'objectif. Ouais. C'est vraiment, il y a une situation comique de la voir sortir et on se dit, mais. Ah ouais, elle y va quoi. Genre, c'est, on pourrait penser qu'elle allait rester dans l'eau parce que c'est parce qu'il lui vole ses vêtements. C'est,
oui, ils font un bain de minuit parce qu'elle va absolument le forcer et le mettre dans des situations où il pourrait être tenté par le sexe avec elle. Et du coup, ils font un bain de minuit et des gens passent et piquent leur fringue et elle sort hurlant.
C'est ça, ouais. Non, mais c'est.
C'est que tu t'imagines à ce moment-là, oh bah c'est un peu mignon, ils vont rentrer nus, ils vont coucher ensemble. En fait, pas du tout. Elle sort et elle hurle comme. Alors qu'elle essaie de le séduire, ça qui est drôle, elle essaie de séduire le gamin comme peut-être on lui a dit de séduire le public masculin, le public universel. Jusque là, en étant gentille, douce et tout. Et là, en fait, la vraie Jennifer Lawrence arrive, elle sort en hurlant, elle les poursuit. C'est tellement génial. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans Causeway, c'est que je retrouve un peu cette chose très subtile et simple qu'il y avait dans Winter's Bone, où tu sais, il y a beaucoup de silence, beaucoup de trucs qui passent par les non-dits, par un jeu qui peut sembler être pas dans l'émotion et vraiment dans l'espèce de normalité du quotidien. En fait, t'es pas tout le temps dans l'émotion dans la vie. Et dans Causeway, c'est vraiment là-dessus qu'elle joue. Et le film à l'époque m'avait bouleversé alors que je m'y attendais vraiment pas, quoi. L'histoire m'intéressait pas plus que ça, je m'en fichais un peu. Et pour moi, c'est dans le top 3 des rôles qui sont les plus beaux dans sa carrière, quoi, celui-là.
Bah, en fait, je trouve le film assez classique, on va dire, dans sa manière d'être conçu, ne serait-ce que le parcours, l'évolution du personnage. Mais c'est justement parce qu'il est porté par Jennifer Lawrence que je le trouve très beau. Alors moi, j'aime bien tous les trucs qui sont mis en abîme, en tout cas des carrières ou des réalisateurs ou des actrices, des acteurs, tout ça. Et pour le coup, je trouve que c'est ça qui marche vraiment bien. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Causeway, c'est qu'en fait, son personnage, donc elle est meurtrie par la guerre, machin, et puis elle a des relations complexes avec sa mère et son frère, etc. Et donc elle veut essayer de se relever, tout simplement. Et la carrière de Jennifer Lawrence, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une actrice qui a été meurtrie par Hollywood, globalement, ne serait-ce que par ses agents, comme tu disais, qui lui ont piraté sa carrière plus ou moins régulièrement, les affaires de sexisme, au-delà d'Hollywood, hein, les réseaux sociaux, etc.
Les photos volées.
Tout ça. Et à côté, qui a été blessée par la vie aussi, puisque du coup, elle a toujours des relations délicates avec sa mère, elle aussi, mais aussi avec ses parents en général, qu'elle a eu de fausses couches, donc, etc. Donc il y a toujours ces genres de trucs qui ressortent. Et à côté de ça, elle essaie de relancer sa carrière, mais dans un jour nouveau un peu, de revenir un peu à ce qui a fait son succès, en tout cas ce qui l'a propulsé, on va dire, avec Winter's Bone, mais à revenir sur quelque chose d'encore plus discret presque que Winter's Bone. Elle est vraiment la... Enfin, c'est... Winter's Bone, je trouve, c'est plus un film à... Bon, pas, c'est pas un film à Oscar, mais en vérité, la performance fait plus film à Oscar, dans le sens où, vas-y, je me bouge et j'y vais,
etc. Oui, c'est
etc.
un bulldozer, quoi, dans c'est le ça, film. C'est ça. Elle s'arrête pas, personne ne l'arrêtera.
Alors que là, c'est beaucoup plus dans la discrétion, et c'est dans... Je me relève doucement, sans forcément faire des caisses. C'est justement, au contraire, des discussions très, 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 très posées avec le personnage de Brian Tyree Henry sur les... Enfin, je trouve qu'il y a une scène qui est très, très jolie où il se pose juste sur un banc. Oui. Dans la rue et ils discutent et on comprend à ce moment-là que de toute façon en plus il est même pas question de d'avenir amoureux entre eux puisqu'en fait il me semble que le personnage de Brian Tyree Henry est homosexuel
oui
ou
je crois
plus.
Tu sens juste que
c'est juste dit dans une phrase comme ça et que voilà c'est on avance doucement on t'enlève des pistes et c'est juste en fait ils vont se relever en étant amis et elle avait besoin de lui il avait besoin de quelqu'un à un moment donné elle en avait besoin aussi. Et ils vont se relever et puis à la fin une forme de enfin il y a vraiment l'évolution parfaite du personnage qui revient quasiment en boitillant de tout ce qu'elle a vécu et en fait va pouvoir se relever et nous regarder en face pour nous dire voilà ce que j'ai envie de faire maintenant et maintenant plus personne va me faire de barrage pas dans le sens vous allez pas forcément m'emmerder parce que probablement qu'il y aura des soucis plus tard dans sa carrière que des gens vont la faire chier mais juste en fait je ferai ce que j'ai envie de faire maintenant et je me laisserai plus guider par des gens qui ne sont pas moi tout simplement.
C'est marrant, elle raconte que Jodie Foster, avec qui elle a tourné quand elle avait une vingtaine d'années, elle lui a dit à l'époque, tu verras un jour, dans quelques années, un moment de ta vie, tu vas te retourner, voir les rôles que tu as choisis, tu verras qu'ils ont tous un sens par rapport au moment où tu étais dans toi, ton parcours personnel. Et quand tu regardes ça par rapport à sa carrière, donc là on disait Serena ne sort pas de nulle part, tous les trucs post-Hunger Games non plus, le fait qu'elle ait fait Passengers et Serena à un moment, enfin pas Serena, Passengers et Red Sparrow, à un moment où elle avait l'impression, elle l'a dit elle-même, que sa carrière était piratée, et puis finalement elle reprend en main les choses et elle fait le Challenge et Causeway qui sont un peu les deux antipodes, sachant qu'elle disait on m'a toujours proposé plein de comédies, mais aucune était bien. Du coup, il a fallu qu'elle se prenne par la main, qu'elle trouve un scénario sur lequel elle mise en tant que productrice et actrice et qu'elle soit contente. Et c'est vrai que c'est une comédie qui ressemble pas beaucoup aux autres comédies qu'on pourrait voir parce que elle va un peu plus loin. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé forcément le film parce qu'il a pas été un énorme carton non plus, mais elle a été nommée au Golden Globe. Donc bon, après la carte Jennifer Lawrence a dû aider hein.
Elle a gagné aussi, je crois. Ah non, mais non, je
non, non, c'est n'importe quoi. Robin,
c'est... Non, c'est Emma Stone.
Emma Stone. Toujours est-il que c'est vachement intéressant qu'elle en soit là à ce stade de sa carrière et on peut aussi regarder tous les films sur lesquels elle a été annoncée, les projets qui ont été annoncés, annulés. Je sais qu'à une époque, elle devait faire un film avec Spielberg, notamment. Elle devait faire des trucs avec Paolo Sorrentino aussi. Ouais. Elle a longtemps parlé d'une comédie avec Amy Schumer, donc j'imagine, vu le tempérament d'Amy Schumer, que ça devait être un truc à la challenge, un truc un peu vulgaire, un peu drôle. C'est con qu'elle l'ait pas fait, ça aurait été vachement amusant. Elle devait aussi faire une nouvelle adaptation de À l'Est d'Éden, réalisée par Gary Ross, celui qui a fait Hunger Games 1.
Ah.
Donc merci de ne pas l'avoir fait.
Elle devait réaliser aussi un truc.
Oui, à un moment, elle avait annoncé un projet. Elle devait réaliser un film sur des essais de drogue psychédélique faits sur des soldats dans les années 60-70. Et finalement, ça a traîné. Puis à un moment, on lui en a reparlé. Elle a dit, en fait, je le ferai pas. Je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué. En fait, je suis fatigué. Une manière un peu humoristique de dire... C'est pas une bataille que j'ai envie de mener, je pense. Ouais. Et puis elle a dû dire entre temps, en fait, j'ai envie d'avoir une vie, d'avoir un gosse et de faire des trucs qui me plaisent. Et si je dois me batailler moi pour faire un film, c'est vrai que tu vois, on peut comparer aussi à Kristen Stewart. Ça fait des années qu'elle a un projet de premier long métrage comme réalisatrice et elle dit qu'elle galère à le faire. Et ça fait 3, 4, 5 ans qu'elle essaye.
C'est fou, hein.
Ouais. Kristen Stewart, quoi. Tu dis, mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui te donne 2 millions pour faire ton film. Enfin, je pense pas qu'elle ait envie de faire un film à 150 millions, donc un peu absurde. Elle devait faire aussi des films avec Luca Guadagnino, qui je sais pas s'ils sont encore prévus. Mais...
Bah, ça, je pense que c'est pas... Bah, face au Luca Guadagnino, elle a tellement de projets en cours que, à mon avis,
c'est comme Taika Waititi. Et je crois que le seul truc qui est vraiment sur dans son futur, là, c'est un film avec Lynn Ramsey.
Ouais, c'est ça.
C'est le seul
qui... Die My Love.
Donc c'est vachement intéressant, c'est la réalisatrice de... en français, c'était quoi? Beautiful Day.
The Beautiful Day. Ouais,
qui a fait We Need to Talk About Kevin.
Et c'est ça, We Need to Talk About
Donc,
Kevin.
Donc réalisatrice assez intéressante qui devait faire Jane Got a Gun avec Natalie Portman. D'ailleurs, on en reparlait.
Ouais, ça c'était moins intéressant, mais... Ouais.
Bah, peut-être que ça aurait été intéressant si ça avait été avec elle.
Oui, bah, non mais après, Natalie Portman, pour le coup, en plus, elle était productrice aussi sur Jane Got a Gun. Donc
on voit que ça a aidé.
Non mais enfin, cela dit, c'était pas nul, mais c'était pas forcément... Non,
ça a été une galère de production.
Oui, c'était un enfer, ce truc.
Enfer de sortie chaotique. Non, c'était. Mais en plus, elle doit jouer. Elle devait jouer aussi pour. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Jennifer Lawrence. J'ai l'impression qu'elle est un peu en mode. En fait, si ça a déjà été fait en mieux par une de mes autres collègues actrices, donc pour le coup Amanda Seyfried dans The Dropout, j'ai pas à faire la même chose dans un film. Genre, je me retire juste du projet et Adam McKay est en mode. Ouais, c'est vrai et tout. Donc Bad Blood qu'elle devait faire sur donc je ne sais plus
Elizabeth
qui.
Holmes.
Ouais, c'est ça, sur Elizabeth Holmes donc
grande arnaqueuse du truc des plaques des analyses de sang avec toute la boîte qu'elle a montée qui s'est écroulée.
Comme The Dropout était trop bien la série avec Amanda Seyfried, elle a dit en fait ça sert à rien que je refasse ça quoi.
Et s'il fallait imaginer les trucs dans lesquels on aimerait qu'elle soit, les réals avec qui on aimerait qu'elle tourne,
des films d'horreur stylés.
Ah ouais, ça c'est vrai.
Ouais.
Un film d'horreur, j'aimerais bien la revoir, je suis d'accord avec toi. Genre un peu un film d'horreur, mais à la Mother, un peu plus intéressant.
Elle est fan de Ari Aster, je crois. Hein. Elle est citée parmi les Cébos, comme tout le monde. Mais je crois qu'elle est citée parmi les 2-3 cinéastes avec qui elle aimerait tourner. Ari Aster, les Oscarax, je crois qu'elle les avait cités.
Ari Aster,
Jennifer Lawrence, ce serait pas mal. Hein.
Ouais,
en plus, je crois qu'elle est tellement archi fan de Ari Aster et Hérédité qu'elle a raconté que son mec lui avait offert un cadeau avec la tête de Toni Collette, je crois.
Tête.
Oui, on n'a plus de nouvelles.
Je crois qu'il m'a offert un cadeau romantique qui était en rapport avec Hérédité et les trucs glauques, genre le poteau ou je ne sais pas quoi, tu vois.
Ah, la tête de la jeune fille.
Peut-être, je sais plus si c'était.
Oh, ce serait... oh c'est glauque.
C'est un gâteau d'anniversaire, c'est juste la tête de la fille.
Incroyable.
Ah, bah oui, en plus, Pita, comme dans Hunger Games, il sait absolument faire des trucs comme ça. Ce serait double référence, quoi.
Non, j'avoue, un petit film d'horreur comme ça, ça pourrait être bien. Mais j'aimerais bien la revoir du coup dans une comédie aussi, mais très, pas le challenge, mais un peu une comédie un peu bourrine comme ça, parce qu'elle a un vrai potentiel comique. Je pense qu'on n'a pas vu suffisamment pour l'instant dans sa carrière.
Ok.
Et après dans des grands réals.
Oui, c'est ça. Dans les grands réals, elle a pas forcément tourné avec des grands réals.
Dans les grands réals, ouais, c'est vrai qu'en fait, elle s'est un peu, elle a pas de grands réals en fait. À part
Aronofsky,
si on peut considérer Russell comme une grande collaboration avec un cinéaste important.
Il n'y a pas de Fincher, de Scorsese, de Spielberg, même si elle a failli avec Spielberg.
Non, mais en vrai, je sais pas. Moi, je la verrais bien dans un petit rôle dans un Paul Thomas Anderson. Voilà.
Intéressant. Hein.
Ok.
Genre, je sais pas quoi, mais bon, Paul Thomas Anderson, on sait jamais ce qu'il va faire, donc...
Après, moi, j'avoue, c'est sûrement ma nostalgie de Hunger Games qui parle, mais comme moi, je suis assez cliente du spin-off de Hunger Games qui est sorti du coup cette année.
Qu'est-ce qu'elle va nous dire
l'année dernière? Non, mais j'ai envie qu'elle refasse un truc à la Hunger Games. Moi, j'aime bien la voir en héroïne d'action. Enfin, parce que justement, elle dégage de la force et de la puissance et de l'authenticité, on va dire, quelque part.
Je crois qu'on va arrêter cette réunion parce que c'est pas possible. Si on en arrive, elle devrait refaire Hunger Games, autant. Non, mais pas forcément ça.
Mais comme t'as parlé de Spielberg, tu vois, moi je la verrais en
Le rapport.
En nouvelle Indiana Jones, ou je sais pas, en tout cas, pas Indiana Jones.
Tu cherches le chaos, toi.
Arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit.
C'est ce que tu viens de dire.
Pas la marque Indiana Jones, mais une aventure d'action.
Bah, sois plus clair, Judith, c'est pas clair ce que tu.
On me fait chier.
Benjamin Window, on va la faire. Moi, je vous le dis, c'est ça, c'est fait, c'est acté.
Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que c'est pas possible. Donc, si je résume, on aime beaucoup Jennifer Lawrence et à part peut-être.
Si, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Mais viens, ça devient la nouvelle James Bond.
Oh non, du tout, non mais. Mais non, mais des rôles originaux.
Réalisé par Ari Aster.
Ari Aster.
Oh, mais ce serait bien.
Non, mais pas James Bond.
Là, je pense qu'on est en train de partir.
Ouais, clairement, vous allez vous taire tout de suite. Là.
Mais pas forcément James Bond, mais tu vois, genre, why not l'avoir dans un Mission Impossible.
Mais arrêtez avec vos sagas, là, vous pas trouver un truc original nouveau, quoi.
Moi, j'ai proposé films d'horreur
moi,
indépendants.
Moi, j'ai donné des trucs originaux aussi, on est d'accord. On préférait l'avoir.
Je la verrais bien en héroïne du prochain Scream. Allez.
On sait que c'est vrai, Geoffrey. On sait que tu le penses au fond.
Ils veulent l'avoir en tueuse.
Donc en fait, à part Passengers et Red Sparrow, on peut quasiment défendre toutes ces films, en plus que même Hunger Games 3.
Grave, il trouve ça mal. Phoenix, par exemple.
Oh là, non.
Et on peut se rappeler qu'elle a quand même juste 33 ans. Donc pour vous dire à quel point tout est allé vite et qu'elle a encore beaucoup, beaucoup de trucs à faire devant elle, donc ça va être assez intéressant à suivre dans les prochaines années. Donc est-ce qu'on confirme qu'on pourrait faire une vidéo sur elle, comme Winona Ryder?
Oui.
Clairement.
Ouais, en tout cas, peut-être qu'on peut déjà faire un top 10 de ses meilleurs films et rôles, parce que je crois que ce sera un peu facile, histoire que la réunion ait servi à quelque chose, parce qu'il y aura
probablement
Winter's Bone, Hunger Games, Happiness Therapy, American Bluff, Mother, Causeway, ça fait 6 à peu près sûr.
Ouais.
Est-ce qu'on met Joy?
Bah, si on met Happiness Therapy, on met Joy, non?
Ok.
Bon, bah, ça c'est fait.
Je crois qu'on mettrait le challenge parce qu'on aime beaucoup.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que
Don't Look Up,
est-ce que vous êtes fan?
Ah oui, de ouf, ouais.
Moi, je la trouve vraiment bien dedans.
Et peut-être Loin de la Terre Brûlée pour un des premiers rôles où faudrait que je le revoie, mais toi, tu l'as revu, Alex, tu penses que ça.
Ouais. Pour nous donner une crédibilité cinéphile.
C'est ça. Non, mais en vrai, ça peut être un peu pas le déclencheur parce qu'il y a eu The Poker House avant, mais ouais.
Ok. Bon bah allez, on fait ce dossier, on publiera ça un week-end parce que les top 10 ça marche toujours le week-end, sauf quand c'est Julianne Moore. J'ai pas le digéré parce que j'avais prévu tellement de vidéos sur Shortcut et sur Magnolia et
ça
tout
viendra,
ça
viendra, donc... ton heure de gloire viendra.
Et en plus je comptais ajouter Julianne Moore à la liste des sujets qu'on pourrait faire dans un podcast si un jour on fait un podcast, donc j'ai bien compris qu'il vaut mieux faire du Marvel, du DC avant parce que c'est plus prudent, et peut-être Jennifer Lawrence avant Julianne Moore. Et là, si les gens nous écoutent, nous suivent, nous mettent de bonnes notes sur les applications d'écoute, bah peut-être qu'on pourra reparler de Julianne Moore et de toutes mes idées sur le renu. En tout cas, j'espère. Il manque plus qu'à le faire, non?
Bah allez. Oui, ce serait une bonne idée.
Il n'y a plus qu'à.